I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Alors, avant de démarrer l'épisode, j'ai un petit message à vous faire passer et qui va particulièrement intéresser tous ceux qui se sentent souvent fatigués, épuisés et qui aimeraient retrouver toute leur énergie. Vous connaissez Jack, il était mon invité sur l'épisode 182 et vous aviez adoré l'épisode que j'avais fait avec lui. 90 000 vues sur YouTube, des dizaines de milliers d'écoutes sur Spotify, des chiffres hallucinants pour un épisode technique. Eh bien, figurez-vous que Jack, il a longtemps lutté contre la fatigue chronique, contre les coups de mou, contre cette sensation d'être constamment épuisé dans sa journée. Eh bien, devinez quoi, il a réussi à transformer sa vie en appliquant les bonnes méthodes et des techniques simples et efficaces. Et il a créé une formation qui est révolutionnaire et qui s'appelle 30 jours énergie. Elle permet de retrouver sa vitalité et sa motivation en seulement 30 jours. Et j'ai eu l'occasion de découvrir et de suivre ce programme de formation en intégralité. Et je dois dire qu'il est assez impressionnant et extrêmement qualitatif. On y retrouve des techniques pour améliorer son alimentation, pour améliorer son sommeil, pour gérer son énergie. Et franchement, il y a des astuces auxquelles on n'aurait pas pensé. Certaines qui sont vraiment novatrices et je les ai découvertes au fur et à mesure de la formation. Et en plus, Jack, il explique super bien, il est passionné par son sujet et il transmet ça à merveille. Et aujourd'hui, eh ben, je vous propose, vous aussi, de découvrir le programme 30 jours énergie. On en a longuement parlé avec Jack et on a décidé de vous faire un super cadeau. Alors, vous connaissez mon talent pour la négoce et en tant qu'auditeur du podcast, Jack a accepté de vous offrir une réduction de 100 euros sur le prix de la formation. Et pour en profiter, c'est très simple. Vous allez dans la description de n'importe quel épisode, vous cliquez sur le dernier lien qui correspond normalement à la lettre, mais vous serez redirigé vers la formation. Et vous pouvez aussi retrouver la page en tapant directement dans votre barre de recherche biomecaniquepodcast.com/énergie. Cette offre, elle est valable uniquement cette semaine, alors ne la manquez pas. C'est une opportunité en or pour dire adieu à la fatigue et retrouver une énergie constante. Par exemple, vous allez notamment apprendre comment modifier vos repas pour booster votre énergie, comment avoir un sommeil plus réparateur, quelles sont les méthodes les plus efficaces aujourd'hui pour gérer son énergie au quotidien, quels sont les meilleurs compléments à prendre. Bref, c'est rempli de conseils pratiques, de routines simples et d'astuces qui sont efficaces pour que vous puissiez vous sentir au top de votre forme. Et en plus, Jack, il est tellement confiant dans l'efficacité de sa méthode qu'il vous offre une garantie. Si vous ne voyez pas d'amélioration dans votre énergie dans les 30 jours, vous serez remboursé intégralement. Vous avez donc absolument rien à perdre. Donc, je répète une dernière fois, vous cliquez sur le dernier lien qui se trouve en description de l'épisode ou alors vous tapez biomecaniquepodcast.com/énergie dans votre barre de recherche et vous aurez la réduction de 100 euros sur la formation. La promo se termine dimanche prochain, le 26 mai. Traînez pas et maintenant, place à l'épisode.
Je ne demanderai jamais d'arrêter de bouger. Donc, en fait, on n'arrêtera jamais une activité sportive. Et ce, qu'il y ait fracture, qu'il y ait rupture tendineuse, qu'il y ait rupture ligamentaire, je m'en fiche. En revanche, je vais demander d'adapter. Ce qui veut dire que si la personne s'est fracturé le tibia, il est évident que je vais pas lui demander d'aller faire des squat jumps. Si une fracture n'est pas sur la partie haut du tibia, mais partie basse, eh ben, on va continuer à faire bouger tout ce qu'on peut, tout simplement parce qu'on sait que bouger, dans tous les cas, ça va faire circuler le sang, ça va favoriser tous les systèmes de récupération.
Bienvenue dans le podcast Biomécanique, le podcast qui vous aide à comprendre la mécanique du corps, à améliorer vos entraînements sportifs et à diminuer vos blessures. Et on vous permet ici de découvrir les secrets des athlètes et des spécialistes de leur domaine. On y parle d'entraînement, de performance, de blessures, de thérapie aussi et tout ce qui touche de près ou de loin à la santé avec des invités à chaque fois exceptionnels. Pour chaque épisode, je m'appelle Jérôme Cazerolle, je suis ostéopathe à Montréal et on va parler dans cet épisode de tous les aspects qu'il y a autour de la reprise d'une activité sportive après une blessure ou simplement un arrêt prolongé. Pour ça, j'ai le plaisir d'être accompagné de David Ferreira, qui est masso-kinésithérapeute, ostéopathe et aussi diplômé en éducation sportive. Donc un super combo pour discuter de thérapie, de santé, de sport et réadaptation. David, c'est un ancien sportif de haut niveau et aujourd'hui, il aide dans son cabinet de kiné-ostéo, mais aussi à travers son coaching santé, toutes les personnes qui ont ou qui ont eu des douleurs, des pathologies chroniques ou qui sortent d'une phase de blessure et qui voudraient retrouver un corps confortable, performant. Ça nous a donc donné l'occasion de discuter dans cet épisode de son parcours, de son cheminement dans le sport et les thérapies. Vous découvrirez les raisons profondes qui ont poussé David à devenir éducateur sportif en plus de kiné et ostéo. Est-ce qu'un thérapeute doit pratiquer l'activité de son patient pour mieux comprendre les problèmes? Est-ce qu'il doit avoir déjà ressenti la même douleur pour être pleinement capable de la soigner? Quelles sont les grandes étapes nécessaires à la reprise d'un sport après une blessure? Comment revenir à un super niveau après une entorse de genou ou même une hernie discale? Et plein d'autres sujets évidemment comme comment lutter contre l'apparition de troubles neurologiques telle la maladie de Parkinson. Si vous voulez recevoir mes emails privés, vous pouvez aller voir le premier lien qui est en description et vous inscrire à la lettre biomécanique. J'envoie pour le moment environ une fois par mois mes meilleurs conseils, mes meilleures réflexions pour vous permettre de mieux comprendre votre corps, guérir vos douleurs, mais aussi améliorer vos entraînements sportifs pour qu'ils soient plus efficaces, plus adaptés. Vous pouvez aller cliquer sur le lien, c'est biomecaniquepodcast.com/lettre pour en savoir plus. Sans plus de transition, je vous laisse écouter ma conversation avec David Ferreira et quant à nous, on se retrouve comme d'habitude en fin d'épisode. Qu'est-ce qui t'a poussé au départ à devenir kinésithérapeute ?
Alors, moi j'ai toujours eu une affinité avec les métiers de la santé, plutôt les métiers manuels. Pour être tout à fait honnête, à la base, je voulais être ostéopathe. Et il s'avère qu'en France, l'ostéopathie a un développement qui est beaucoup plus compliqué que lorsque tu as déjà une casquette de professionnel de santé. Et à 18 ans, quand tu sors du bac, tu prends un peu des avis à droite à gauche. Et la plupart des avis qu'on m'a donné, et je pense un des meilleurs, pour moi en tout cas, ça a été de me dire « fais kiné d'abord ». Parce que ça va te donner une casquette de professionnel de santé et que ça plaise ou pas, en kiné, on a énormément de travail. En ostéopathie, c'est beaucoup plus difficile de se faire connaître. Et donc, on m'a dit la meilleure façon de pouvoir pratiquer ce qui te plaît tous les jours, c'est de commencer par kiné. Au moins, t'es sûr d'avoir du boulot. Ça te fait un filet de sécurité. Et ensuite, si vraiment t'es passionné par l'ostéo, tu pourras faire l'ostéo en plus. Donc, c'est ça qui a fait qu'au tout départ, je me suis dirigé vers la kiné. Et en fait, arriver en kiné, ça a été juste une révélation aussi, dans le sens où c'était encore une autre façon de travailler, mais qui me plaisait tout autant. Et aujourd'hui, je me rends compte encore plus de la complémentarité entre les deux métiers, et ça me permet vraiment de répondre à certaines problématiques des patients d'une manière plus complète, je pense.
On pourra revenir sur ça justement, sur la complémentarité des deux professions. Après, ouais. Et c'est assez curieux ce que tu dis parce que t'es la deuxième personne qui me parle de ça. T'as quel âge aujourd'hui ?
J'ai 29 ans.
29 ans, ok. J'ai fait un épisode qui, je pense qu'à l'heure actuelle, n'est pas encore sorti à l'heure où on enregistre cet épisode-là. J'invite les auditeurs à aller l'écouter. Je sais pas le combien ça sera. Peut-être ça sera le 18e épisode avec Xavier, qui est justement kiné et ostéopathe et qui lui a un petit peu plus d'expérience et disait déjà que l'idée c'était de faire kiné d'abord pour s'assurer une espèce de sécurité. Dans la profession, mais qu'il a justement il a très vite basculé. En tout cas, il s'est formé en ostéopathie l'année suivante, il me semble, de son diplôme en kiné. Donc c'est un petit peu le même cheminement et c'est marrant parce que l'ostéo monte beaucoup, il y en a de plus en plus, c'est quelque chose qui devient de plus en plus connu, les gens consultent régulièrement en ostéopathie, c'est plus réellement un métier qui est considéré comme marginal, et pourtant toi on t'a quand même conseillé et puis t'as préféré choisir d'abord la kiné, quelque chose qui est beaucoup plus dans les clous, dans le sens où c'est remboursé par la sécurité sociale. Donc, tu vois, que ça soit maintenant ou avant, finalement, c'est un peu le même. On avance tranquillement, mais ça prend du temps.
En fait, je crois que ça dépend pas mal des pays également. Tu vois, par exemple, moi j'ai beaucoup de liens avec la Suisse. Et je sais que la situation des ostéopathes en Suisse n'est pas du tout la même. Les assurances suisses remboursent pour certaines entre 10 et 15 séances d'ostéopathie par an pour 110 francs suisses, ce qui correspond à une somme assez astronomique pour nous. Ici en France, c'est pas du tout développé de la même façon. Et en ostéopathie, le prix d'une séance fait que les gens vont pas consulter 10 fois un ostéopathe. Et puis dans le concept de l'ostéopathie, on n'est pas non plus dans l'idée de voir les gens énormément de fois. À la rigueur, on les voit une fois, deux fois, trois fois. Allez, pour un problème très ancien, peut-être que je vais voir quelqu'un cinq fois avec des délais entre les séances. Mais on n'est pas comme sur des rééducations où quand un patient va rentrer dans ta patientèle, sur certaines opérations, par exemple, on va voir les gens trois fois, quatre fois par semaine. Ça veut dire que pour créer un temps plein, t'as besoin de beaucoup moins de patients en kinésithérapie qu'en ostéopathie. Donc ça, c'était en fait, ça plaît pas forcément à tout le monde, mais c'est comme ça. Donc du coup, on est obligé de trouver des solutions. Et moi, j'ai beaucoup d'amis qui, quand moi j'ai bifurqué à la kiné, eux sont partis directement en ostéo. Et quand je suis arrivé en ostéo, ben eux étaient encore avec un mi-temps chez Decathlon ou McDonald's ou quoi pour assurer le reste. Et si moi l'objectif était de finir en tant qu'ostéopathe, j'avais quand même envie que mon temps plein soit fait pour la santé. Donc cette solution était plus adéquate.
Toi, ton objectif de départ quand t'as commencé tes études de kiné, mis à part ce côté un peu sécuritaire sur l'avenir de ton métier, est-ce que tu souhaitais plus tard t'occuper de sportifs de haut niveau, plutôt accompagner des équipes ou tu voulais grossièrement, on peut dire, traiter monsieur, madame, tout le monde des blessures un peu habituelles?
En fait, moi, je suis rentré, quand on m'a proposé la kinésithérapie en me disant « fais ça en tant que filet de secours », j'ai quand même accepté et j'ai quand même décidé de prendre ce chemin-là parce que ça me plaisait. Moi, j'étais nageur à haut niveau et donc j'avais pas mal de contacts avec des kinés, j'étais patient et leur approche me plaisait aussi. Et de par le milieu d'où je venais, donc le sport, évidemment, quand je suis rentré en kiné, la première année, c'était bah moi, je vais être kiné du sport en fait. Je voulais m'occuper des sportifs. Toujours avec l'idée que de toute manière j'enchaînerai les deux études, j'enchaînerai avec l'ostéopathie. Donc moi, mon inscription en école d'ostéopathie, je l'ai faite, j'étais encore en troisième année de kiné, puisque je m'étais inscrit, je me souviens, au mois de janvier, et donc j'étais diplômé que de toute façon au mois de juillet. Donc j'étais déjà inscrit et j'ai enchaîné, j'étais diplômé au mois de juillet, et au mois de septembre j'entrais dans l'école d'ostéo.
D'accord. Est-ce que tu te souviens, j'avais posé la question à Xavier, j'avais trouvé ça intéressant, tu te rappelles de ta première expérience en tant que patient, peut-être en kiné et ensuite en ostéo?
Absolument. Ma première expérience en tant que patient, en tant que en kiné, j'étais nageur et j'avais beaucoup de problèmes d'épaule. J'avais un problème d'épaule surtout à droite et j'avais fini chez un chirurgien parce que le médecin, bah, en gros, donnait des anti-inflammatoires, il disait d'appliquer de la glace et puis de continuer à s'entraîner. Au bout d'un moment, j'avais vu un chirurgien qui avait dit bon bah là, l'épaule est un peu instable. Il va falloir faire de la kiné, sinon si ça passe pas, on envisagera une intervention. Donc du coup, ben tous les espoirs étaient un peu donnés à la kiné à ce moment-là. Donc j'avais eu un kinésithérapeute vraiment très bien à cette période. Et puis en gros, ça a été ça. Après, on avait des kinés pour tout ce qui était récupération, mais là c'était différent. Mais ma vraie entrée en kiné en tant que patient, c'était pour une pathologie à la base. En ostéopathie, je me souviens pas de ma première consultation, mais je sais comment ça s'est passé. J'avais 3 ans, j'ai sauté d'une table et je me suis tapé la cheville dans la baignoire. Et mes parents m'ont emmené aux urgences, et aux urgences, ils ont dit qu'il fallait plâtrer. Et ma mère est infirmière, et elle a dit, moi j'ai pas envie que mon gamin soit plâtré là, il y avait rien à la radio, donc elle a dit, je l'envoie voir mon ostéo. Et donc, je pouvais pas marcher, je boitais. Et après la séance d'ostéo, je marchais nickel. Ça, c'était ma première consulte en tant que patient en ostéo.
T'avais une entorse à la cheville, hein, c'était pas une fracture.
Il n'y avait pas de fracture, non. Il n'y avait rien, en fait, aux examens. Donc, eux, ils ont juste dit, il faut plâtrer pour être sûr qu'il ne marche pas dessus. Et l'ostéo, lui, je ne sais pas ce que c'était son diagnostic, mais il a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il a fait 2-3 manips et je suis ressorti de là en marchant, quoi.
Ok, bah ça me fait penser justement, c'était il y a quand même plusieurs années qu'il plâtrait même les entorses, tu vois. Ça fait bon, maintenant on le voit de moins en moins parce qu'on sait très bien qu'une entorse, il faut absolument pas la plâtrer. C'est le pire à faire finalement parce que tu t'entraves toute récupération. On plâtre pour un os parce qu'on n'a pas envie que ça bouge. On a envie de garder un alignement pour pouvoir que ça se reconstruise et que ça redevienne solide. Mais une entorse, je sais pas s'il y a encore des médecins, des vieux médecins qui plâtre les entorses. J'espère pas en tout cas, mais enfin, en tout cas pour ceux qui écoutent, ils sauront qu'une entorse, faut la garder un petit peu mobile. Hein.
Ouais, absolument. Il y a beaucoup de médecins qui mettent encore des attelles. En fonction des stades d'entorse, on peut envisager quelques jours d'attelle, mais j'ai quand même beaucoup le souci de médecins qui mettent des attelles, même sur des entorses de stade 1, et qui demandent de la garder 3 semaines. Ça, on sait que c'est plus tout à fait à jour.
Et est-ce que tu te souviens, comparativement, à ta première séance en tant que patient, est-ce que tu te souviens de ta première expérience en tant que thérapeute? Peut-être ton premier patient que tu as eu en kiné ou peut-être même en ostéo. Et ce qui m'amène à la question suivante, Est-ce que tu as ressenti une appréhension ou tu te sentais pas complètement à l'aise dans ton rôle? Tu sentais que tu étais encore un peu novice. Un truc qui revient beaucoup chez les thérapeutes, c'est le syndrome de l'imposteur un peu au début, où on a l'impression qu'on connaît vraiment pas grand-chose et qu'il faut qu'on est pas réellement à notre place encore.
Alors, j'ai pas eu ce problème-là, du problème de l'imposteur, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à faire de la kiné, et j'étais pas encore kiné. C'est-à-dire que comme j'étais nageur, dès lors qu'on a commencé à apprendre tout ce qui était levée de tension, massage, etc., j'ai proposé à mon club, pour moi, me faire la main, de faire gratuitement auprès des nageurs des soins simplement de levée de tension, récupération, massage, etc. À la maison, mes parents m'avaient acheté une table et sur mes parents, je m'entraînais à faire levée de tension, mobilisation. Dès qu'on apprenait un nouveau truc, je faisais tout à la maison et je savais qu'à la maison, si j'y arrivais pas, de toute façon, il n'y avait pas de pathologie sous-jacente, je m'entraînais sur quelqu'un de sain. Pareil sur les nageurs, au final, je m'entraînais sur des personnes saines et le but était juste de leur apporter du confort. Ensuite, en kinésithérapie, t'es vachement suivi, t'es tout le temps en stage, etc. La vraie première fois où je me suis occupé de quelqu'un tout seul avec de la pathologie, c'était, je me souviens, j'étais en fin de première année de kiné. On était censé faire un stage d'observation. Et en fait, je suis arrivé dans un service de rééducation pour en pédiatrie, mais en pédiatrie associée à des troubles psychiatriques. Donc c'était un centre qui recevait des jeunes qui avaient fait des tentatives de suicide pour la plupart. Et à ce moment-là, quand je suis arrivé, il manquait énormément d'effectifs de kinés. Et donc, ils m'ont dit, bah écoute, qu'est-ce que tu sais faire? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà. Et donc, je leur ai dit que j'étais dans le sport. Et ils m'ont dit, bon, bah on va essayer de te filer des fins de réduc, plutôt en mode réathlétisation. Voilà un dossier. T'as une heure pour le lire, mettre en place une réduc, nous dire ce que tu ferais. Donc, j'ai fait ça. Ils m'ont dit, bon, bah très bien. Maintenant que tu nous as dit ce que tu voulais faire, bah tu le fais et on te regarde faire. Et si c'est bien, on donne une liste de patients. Et comme ça s'était bien passé, je me suis retrouvé avec une liste de 6-7 patients à gérer par jour, avec des réathlétisations à faire. Donc en fait, ça m'a mis dans le bain assez rapidement, et progressivement, avec les stages, on avait des pathologies de plus en plus difficiles. En cabinet, en vrai cabinet, là je me suis senti débordé, c'est mon premier emplacement. J'étais diplômé, et je suis arrivé dans un cabinet qu'on appellerait en France les cabinets usines, où tu as 6 personnes qui arrivent en même temps. Là, ça a été la cata. Du jour au lendemain, tu passes de stage où t'es plutôt supervisé à là, t'es tout seul et il y a 6 personnes qui arrivent, tu les connais pas et il faut faire quelque chose. Donc là, c'est le moment où j'étais le moins à l'aise, mais c'est des modes de fonctionnement de cabinet qui restent quand même relativement rares, donc j'estime que je suis juste tombé sur au mauvais endroit. En ostéopathie, c'est un pareil. Le fait d'être kiné avant, eh bien, tu commences déjà à faire de la thérapie manuelle en kinésithérapie. C'est-à-dire que tu proposes aux gens, tu leur dis, voilà, moi je fais de la manipulation. Si jamais vous le souhaitez, on peut intégrer quelques manipulations dans vos soins de kiné. Donc du coup, je faisais de la thérapie manuelle tant que j'étais pas ostéopathe. Et du coup, si tu veux, en thérapie manuelle, les gens ont pas la même attente de toi que quand t'es un ostéopathe. Comme ils savent que c'est sur leurs soins kiné, bah ils se disent, bon, bah ça apporte un plus par rapport à la kiné habituelle. Si jamais ça me donne pas les résultats de l'ostéo, c'est pas grave parce que c'est pas ça qu'ils attendent. Donc le jour où j'ai été ostéopathe et où j'ai fait des vrais soins d'ostéopathie, en réalité ça faisait déjà bien longtemps que j'avais ma réflexion ostéopathique et que je manipulais déjà des gens au cabinet.
D'accord, c'est vraiment quelque chose qui est venu progressivement, où t'as mis peu à peu en place les outils de l'ostéopathie au sein de ta pratique déjà de kiné et de la patientèle que t'avais. Donc t'as pas eu vraiment un espèce de gap où t'es passé de tout ou rien. Et même dans tes études de kiné, ça a été pareil. Je veux dire, t'as eu des stages, des choses qui ont fait que, et même toi personnellement, t'es arrivé petit à petit. En fait, t'as pas eu cette sensation de d'un coup j'ai de très grosses responsabilités, de très grosses attentes. Et parce que ça me fait penser en ostéo. Moi, je suis pas passé par la phase de kiné. J'ai pas fait d'études de kinésithérapie. J'ai directement été en études d'ostéopathie. Et il y a un peu cette idée qu'une fois que t'as terminé les études, alors effectivement, tu pratiques pendant ta scolarité. Enfin, t'as des heures de pratique Je dis ça pour ceux qui ne savent pas exactement comment ça se passe, les études d'ostéopathie, mais tu as vraiment des plages horaires qui sont de pratique entre nous, dans la promotion, pour s'exercer aux techniques, aux tests, etc. Et ensuite, à partir d'une année, tu as la clinique pédagogique où tu prends en charge des patients en ostéopathie au sein de la clinique de l'école, supervisée par des assistants, des professeurs. Bon, déjà, la première fois, évidemment, il y a un petit gap, mais tu es quand même entouré par une équipe pédagogique, donc on va dire que si jamais tu sais pas ou quoi que ce soit, je veux dire, tu peux être secouru, t'es pas complètement lâché dans la nature, mais le gros gap qui se fait, c'est quand tu démarres pour de vrai, parce que là, t'as personne qui vient t'assister, qui peut te donner conseil ou quoi que ce soit, et la grosse problématique, l'attente, c'est que tu dois avoir des résultats, t'es conditionné déjà dès le départ. Parce que tu fais une profession qui est pas remboursée, donc on te conditionne du fait qu'il va falloir que tu aies des résultats, et puis quand t'as personne, t'as pas de prof autour de toi et que t'as la personne qui vient te voir, tu sais que elle a, comme tu dis, elle a payé, elle est pas nécessairement remboursée derrière par son assurance, ou en tout cas pas du tout par la sécurité sociale, donc elle veut un résultat, c'est pour ça qu'elle vient, et donc il y a quand même une pression qui se fait sur ça.
C'est exactement ça, parce qu'en plus, il y a énormément d'ostéopathes sur le marché et que tu as tes preuves pour faire tes preuves en fait avec quelqu'un. En général, c'est la première séance. C'est ce que la kinésithérapie apporte comme peut-être moyen de rassurer les thérapeutes. C'est que quelqu'un qui vient pour de la kiné, en général, il vient pour 10 séances. Si jamais tu commences la kiné et t'arrives pas à identifier son problème à la première séance, c'est pas très grave en réalité. Parce que faire du lien avec la personne, c'est aussi important. Donc c'est vrai que si jamais t'as pas identifié le problème de la personne à la première séance, et que cette première séance finalement a été, juste, entre guillemets, l'occasion de créer un contact, c'est pas très grave en soi, puisque toutes les informations que t'auras récupérées pendant cette première séance, elles vont servir à quelque chose. En ostéo, les gens, ils viennent à une séance, ils ont déjà un objectif par rapport à leur douleur, il faut qu'il se passe quelque chose après. Donc effectivement, quand t'as que l'ostéo, t'as cette peur-là. Moi, je l'ai pas eu du coup, parce qu'en réalité, je savais déjà faire des soins ostéo et je connaissais mes résultats avant d'isoler mes deux activités.
Tu vois, c'est hyper intéressant. J'avais pas nécessairement prévu de discuter un peu de tout ça. Je pense que j'aimerais y revenir dans des épisodes futurs. J'essaierai peut-être de... si ça intéresse les gens, j'aurai des retours par rapport à ça. C'est pas vraiment là où je voulais aller aujourd'hui de toute façon, mais ça montre déjà d'une part un peu ton parcours, ça explique par quoi t'es passé, un petit peu comment, quel a été ton cheminement. C'est intéressant de voir la conscience que t'as par rapport à ça. Tu dois avoir beaucoup de collègues aussi ou des confrères, comme on dit, qui n'ont pas fait kiné, qui ont dû déjà peut-être expliquer cette situation de ce qu'ils ressentaient quand ils ont démarré. Sans nécessairement vouloir continuer là-dessus sur les problématiques de logistique kiné-ostéo sur l'installation ou quoi. Toi, t'as fait éducateur sportif aussi. Est-ce que ça a été après tes études d'ostéopathie? Et pourquoi? Pour quelle raison en fait? Est-ce que tu pensais que c'était par passion, tu voulais embarquer là-dedans, ou tu pensais que c'était une corde à ton arc en plus pour améliorer les résultats de ton travail?
Alors absolument pas. En France, être éducateur sportif, tu as une équivalence avec la kinésithérapie. Il suffit simplement de suivre des modules de kinésithérapie du sport pendant ta deuxième année de kiné. Et à la fin de ta deuxième année de kiné, avec les résultats de tes examens de kiné du sport, tu as possibilité de valider un diplôme d'éducateur sportif qui te donne la possibilité de faire des cours collectifs dans des structures qui gèrent plusieurs patients en même temps. J'entends des structures qui ne sont pas reliées à la sécurité sociale, donc par exemple des studios stretching, studios yoga, etc. Et ça te donne la possibilité de gérer des séances de groupe.
Ok, mais on peut dire que t'es coach sportif ou pas finalement?
Alors non, je dirais pas coach sportif, on va dire juste éducateur sportif, c'est le diplôme que j'ai. Ensuite, je n'ai pas suivi par exemple un BPJEPS ou un CREPS ou quelque chose comme ça. Si je vais dans une salle de sport, je suis pas en mesure de donner des cours qui sont autres que pour la santé.
D'accord. Et tu pourrais pas être non plus coach entraîneur personnel dans un gym sur un plateau musculation par exemple, ou t'accompagner quelqu'un sur une séance de sport personnel.
Tout dépend de l'objectif. Et c'est ce que je disais, parce que moi j'ai développé le coaching santé depuis cette année. Tout dépend de ses objectifs. Si ses objectifs sont santé,
j'ai les compétences. Si ses objectifs sont performance, que c'est quelqu'un qui me dit moi je suis rugbyman et je veux aller au plus haut niveau, ou moi je veux faire du bodybuilding et je veux me présenter à une compétition, non, clairement je l'enverrai vers quelqu'un qui est plus spécialisé là-dedans. C'est pas mon domaine.
Plus un préparateur physique dans ce cas-là. Ouais. Je renvoie à l'épisode avec Julien Volant où on parlait de la préparation physique, du coaching. Donc peut-être que toi, tu te situerais sur un athlète, par exemple, qui s'est blessé, qui veut déjà reprendre une rééducation. Toi, tu te situes peut-être ici en début alors en rééducation, en départ l'activité, et ensuite c'est peut-être le préparateur physique ou le...
Je suis spécialisé dans la prise en charge des gens, soit qui veulent se remettre à une activité physique et avoir des objectifs uniquement santé, c'est-à-dire s'entretenir, ou des gens qui sortent de pathologie et qui vont se réintégrer après sur un cursus de prépa physique beaucoup plus poussé. Je fonctionne avec des coachs qui eux sont spécialisés là-dedans, et moi je fais le lien, c'est-à-dire que cette idée-là, elle est venue à la base de coach avec qui je travaillais et qui me disait, bah moi, si la personne elle est trop proche de la pathologie, bah je le fais pas trop parce que j'ai peur de la faire rechuter. Ou le coach qui me dit, bah moi cette personne là elle a une pathologie inflammatoire, polyarthrite rhumatoïde ou quoi, elle fait énormément de poussées et je sais pas gérer ça et je sais pas trop moduler mon activité par rapport à ça. En France, il y a des coachs qui maintenant peuvent faire une spécialisation dans la pathologie. Mais moi, j'ai voulu vraiment répondre à cette partie-là qui m'intéressait, parce que moi, je fais beaucoup de sport à titre personnel, et je voulais m'occuper de ce lien entre la performance, avec un coach dédié, et la sortie de la rééducation, où t'es pas non plus encore tout à fait suffisamment au niveau pour être dans la performance.
Ok, et la réathlétisation, à ce moment-là, où c'est que tu penses qu'elle interviendrait ?
La réathlée, en fait, ça, normalement, ça devrait être fait dans les cabinets de kiné. Dans la vraie vie, la réathlée se fait pas dans les cabinets de kiné, souvent à cause des structures. C'est-à-dire que moi, j'ai des amis, par exemple, sur Nice, qui ont des très grosses structures avec du très gros matériel, tout équipé de technogym, des presses, etc. Eux, ils font des sessions de réathlée. Et en fait, ils font ce que moi, je fais en coaching, ils le font dans leur cabinet. Mais il y a beaucoup de cabinets qui n'ont pas les structures nécessaires et qui, du coup, s'arrêtent à la fin des symptômes douloureux. Or, la rééducation ne devrait pas s'arrêter là.
Tu parlais de ton attrait pour les sportifs, en tout cas pour ceux qui ont cette idée de sport, de santé. C'est notamment pour ça que je tenais vraiment à t'inviter sur le podcast. Je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et pour avoir cet attrait, c'était quoi ton parcours sportif à toi ? Et quelles activités tu continues à pratiquer aujourd'hui ? J'avais lu que tu avais... T'étais un ancien sportif de haut niveau. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ?
Alors, moi, j'ai commencé tout petit, le sport. J'ai commencé, j'avais 6 ans. J'ai commencé avec du tennis. Et puis, j'avais des douleurs de dos. Et puis, assez rapidement, à ce moment-là, quand on avait mal au dos, on allait voir le médecin. Le truc à la mode, c'était l'attitude scoliotique. Donc, on a dit que j'avais une attitude scoliotique. Et le truc à la mode, c'était le tennis. Tout ce qui est unilatéral, on bannit. Donc, on m'a forcé à arrêter le tennis. C'était un mal pour un bien, on va dire, dans le sens où il a fallu choisir autre chose. Et à ce moment-là, j'ai choisi la natation. Et il s'avère qu'en natation, j'avais beaucoup plus de prédispositions qu'en tennis. Donc, à ce moment-là, j'avais 9 ans. J'ai commencé mes premiers championnats de France. Ça s'appelait la petite Vittel Cup. À ce moment-là, je les ai faits. J'avais 11 ans. Donc, c'était 2 ans après. Et à partir de là, je m'entraînais déjà tous les jours. Mes premiers championnats de France par catégorie, après, c'était j'avais 14 ans, où là, j'avais fait une 4e place lamentable en loupant un plongeon. Enfin bref, ça restera toute ma vie dans ma tête. J'ai plus jamais fait les mêmes erreurs après. Et puis, j'ai continué dans la natation jusqu'à la fin. Je nageais tous les jours. J'avais 2 heures par jour. Pendant les vacances, on s'entraînait 2 fois par jour, plus une séance de muscu le midi. Donc je nageais en moyenne 12 à 14 km par jour, plus 1h30 de muscu. Et j'ai continué ça jusqu'à ce que mes études ne me le permettent plus. En fait, arrivé à la seconde au lycée, il a fallu faire un choix. C'est soit je partais en sport-études, soit je savais que... Mais il fallait faire le bac en 4 ans. Soit je voulais faire le bac en 3 ans et je restais sans sport-études, mais je savais que j'allais me faire distancer par ceux qui étaient derrière moi. J'ai pas voulu passer le bac en 4 ans parce que je supportais pas de perdre du temps à ce moment-là. Et mon entraîneur du moment m'a mis à fond dans la muscu en me disant la seule façon que tu vas avoir de pouvoir continuer à lutter contre des gens qui s'entraînent deux fois par jour toute l'année, c'est de devenir beaucoup plus musclé. Donc du coup, j'étais à fond dans la muscu à partir de 16 ans et j'ai arrêté la compétition, je devais avoir 21 ans.
Et juste par curiosité, est-ce qu'aujourd'hui tu es d'accord avec le fait que le tennis est un sport qui est donc latéralisé, déséquilibré et que c'est mauvais pour la santé, on va dire ?
Bah, je suis pas du tout d'accord avec ça. Si moi j'avais effectivement un enfant aujourd'hui qui développait des douleurs à cause d'un sport unilatéral, ben simplement plutôt que de lui faire arrêter le sport unilatéral si jamais ça lui plaît, je proposerais des compléments pour pouvoir compléter ce qu'il fait pas avec son sport unilatéral en fait.
Et t'as des exemples précis là, en l'occurrence, pour quelqu'un qui fait du tennis ?
Quelqu'un qui fait du tennis, mais juste de la PPG. Tu fais une prépa physique à côté qui lui permet de rétablir les déséquilibres et t'évites certaines douleurs. Après, c'est un peu fluctuant hein, les avis là-dessus. Il y en a qui disent que les déséquilibres sont pas forcément très graves. Hein. Tu regardes Nadal, il a un bras complètement déséquilibré par rapport à l'autre. Ça pose pas forcément de problème, mais la prépa physique est importante.
Mais tu vois, je me demande à quel niveau justement ça a peut-être, enfin, ça lui a posé problème ou ça lui a pas posé problème, parce que dernièrement, pour avoir vu, enfin, quand je dis dernièrement, c'était peut-être l'année dernière, quand je l'avais vu jouer, je me souviens que son bras gauche, il est gaucher, est quand même bien moins volumineux qu'il ne l'a été il y a peut-être 5 ans. Je sais pas si c'est parce qu'il y a eu des blessures et qu'il a pas récupéré un volume musculaire qu'il avait auparavant, ou si parce qu'il avait des douleurs justement de déséquilibre et puis avec son préparateur physique ou son entraîneur, ils ont décidé de peut-être ralentir, de diminuer l'hypertrophie à gauche. Je sais pas si toi tu l'as vu ça.
Ben le problème, c'est toujours pareil, c'est que même si jamais ta personne est déséquilibrée, à partir du moment où t'es dans le sport de haut niveau, est-ce que ta douleur est due au fait qu'il y a un vrai déséquilibre, ou est-ce que ta douleur est aussi due à de l'hypersollicitation chronique? C'est hyper compliqué de le déterminer. Donc, par logique, on va se dire que si jamais il sollicite toujours le même côté, ça va être gênant, donc on va faire une prépa physique pour essayer de combler ces déséquilibres. Est-ce qu'on pourra prouver que le déséquilibre est vraiment problématique? Je sais pas, après tout on s'en fiche, du moment qu'on arrive à trouver une solution pour que l'athlète soit le mieux possible. Mais dès lors qu'on est dans le sport de haut niveau, je pense que les blessures c'est inhérent au sport de haut niveau. Même sur un sport comme la natation, tu vois, qui est hyper complet, je connais pas de nageur qui ait jamais souffert. Hein.
Mmh, donc je suis assez d'accord avec ça aussi. Il me semble que j'en avais déjà parlé, notamment à travers ce podcast, c'est que le sport santé n'est pas la même chose que le sport performance. On n'est pas dans les mêmes objectifs de toute façon, donc c'est quand on est dans la performance, on met de côté certains paramètres pour aller chercher plus haut, plus fort. Mais c'est en même temps intéressant parce que j'imagine qu'il y a un équilibre. Si je me souviens, c'était avec Nicolas Gravis aussi où on en discutait de ça, et c'est lui qui me le rappelait justement qu'un sportif en santé, c'est aussi un sportif qui va pouvoir avoir des performances plus intéressantes. Donc la ligne, elle est assez difficile à trouver. C'est à partir de quel moment on est suffisamment en santé pour avoir de bonnes performances, et ou alors qu'on va chercher des performances au détriment de la santé. Je sais pas si tu vois un peu le schéma.
Je pense qu'en fait, les blessures sont un super marqueur. Parce que si jamais tu es dans des conditions qui sont censées être optimales, tu en avais parlé dans un des podcasts avec Rudy Koya, où il parlait justement de la morpho-anatomie, tout ça, et du fait que si jamais tu fais attention à tout ça, que tu développes des douleurs à partir d'un certain volume de sport, eh ben je pense que là t'es en train de toucher tes limites. Le mec qui fait 8 heures de sport par semaine, tout se passe bien, il progresse nickel, et demain il décide de passer à 12 et ça commence à se déglinguer de partout, il est en train de flirter avec ses limites. Ses limites, il peut les repousser, il pourra faire en sorte que peut-être dans un an ou deux il soit capable de supporter ses 12 heures. Mais clairement, à ce moment-là, là, il est plus dans la santé. Et en sport de haut niveau, on s'intéresse pas trop à savoir si jamais il faut réduire ou pas à ce moment-là. En tout cas, moi, c'est la vision que j'en ai eue. Côté des douleurs ou pas, les entraînements, ils sont là. Et tu faisais les entraînements. Après, c'est peut-être pas le vécu de tout le monde, mais c'était le mien, en tout cas.
Et toi, justement, qui a pratiqué du sport, qui a ce retour, ce feedback et cette expérience personnelle, est-ce que tu penses Enfin, est-ce que tu fais partie donc des thérapeutes ou des kinés ou des préparateurs physiques, enfin de on va dire tout ce secteur, toute cette catégorie de gens qui essaient d'améliorer les performances et la santé de leurs clients, patients, ça dépend. Est-ce que tu penses qu'il faut avoir pratiqué le sport de son athlète ou de son patient pour mieux comprendre les problématiques et les traiter? J'avais entendu dans un podcast, je sais plus lequel, je pense que c'était un podcast d'Aurélien Broussal qui est un préparateur physique, sur ce questionnement, à savoir que on peut être extrêmement bon préparateur physique sans nécessairement pratiquer le sport en question. Et il y a d'autres personnes qui pensent qu'il faut absolument pratiquer le sport, il faut avoir une expérience, il faut être soi-même passé par les étapes de l'activité pour mieux conseiller, pour mieux traiter, pour mieux améliorer les conditions de l'athlète. Et juste pour terminer, c'est un petit peu... j'ai pas nécessairement d'exemple pour le premier cas, mais par exemple, tu vois, Philippe Lucas, qui est l'entraîneur de Laurent Manoudou, je sais pas si lui, il a pas été aussi champion que Laurent Manoudou, et pourtant il a entraîné de manière extraordinaire. Où c'est que tu penses qu'il faut se situer là?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a, quand tu es préparateur physique, pour identifier des douleurs, par exemple, je pense que le fait d'avoir pratiqué le sport que tu encadres te permet d'identifier rapidement d'où vient la douleur, parce que la plupart du temps, tu l'as déjà vécu. Mais en réalité, c'est juste que tu as gagné du temps en pratiquant ce sport. Parce que toutes les années que tu as passé à pratiquer ce sport, à ressentir les douleurs, etc., sans forcément savoir les expliquer, bah, tu as engrangé des sensations, tu as engrangé des situations et des expériences qui, le jour où tu bénéficies de l'enseignement en rapport avec la santé, deviennent tout d'un coup beaucoup plus cohérentes. Tu te dis, mais ouais, c'est ça que j'avais, c'est ça qui se passait, etc. Et quand un de tes nageurs, par exemple, développe une douleur, mais tu fais le lien beaucoup plus rapidement, tu as besoin de moins d'années d'expérience, entre guillemets. Mais pour moi, tu peux arriver à un excellent niveau avec ton expérience de terrain. Simplement, effectivement, moi, j'arrive dans un club de natation en tant que préparateur ou en tant que staff médical. Un autre arrive dans un club de natation, n'a jamais fait de natation. Je pense que je diagnostiquerai les choses plus rapidement que lui si jamais il a aucune expérience dans la natation. Mais si jamais tu prends un mec qui est là depuis 10 ou 15 ans à s'occuper de nageurs et qui a jamais nagé de sa vie, probablement qu'il les diagnostiquera encore plus rapidement que moi, parce qu'il aura engrangé des sensations aussi.
D'accord, donc l'expérience pour toi, elle passe pas nécessairement par le fait d'avoir pratiqué soi-même l'activité en question et d'avoir expérimenté soi-même les blessures.
Non, je pense pas. Je pense juste que quand tu les as expérimentées, tu gagnes du temps.
Ouais, j'ai pas assez de recul peut-être moi pour ça, je sais pas trop, juste pour mon petit retour personnel. J'ai l'impression que quand j'ai moi-même ressenti dans le passé ou précédemment une douleur, lorsque le patient en fait me décrit sa douleur, me parle de sa problématique, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus l'empathie, ou en tout cas par rapport aux détails qu'il va me donner. Si moi je les ai ressentis soit dans les semaines précédentes, admettons, et il vient me voir parce que il a mal au dos, si moi j'ai eu un petit peu mal au dos dans l'année qui a suivi, ou alors dans les 10 dernières années, ou que j'ai eu une blessure, je vais être capable un petit peu d'essayer de m'imaginer, de ressentir sa douleur. Et ça va m'aider. Alors, ça n'a absolument rien de spirituel ou rien de métaphysique ou quoi. C'est subjectif, certes,
oui.
Mais on est dans le corps, quoi. J'ai l'impression que je vais être mieux capable donc de ressentir ce qu'il ressent. Dans un sens, j'essaie de me le mentaliser moi-même. Ok, je me souviens avoir ressenti ça, donc je vois ce qu'il ressent. Et sans essayer de faire trop de similarité, alors que peut-être il y a une différence, tu vois. J'essaie de rester neutre quand même, mais c'est comme si ça m'aidait dans un sens à mieux diagnostiquer. Quand je dis diagnostiquer, c'est à mieux trouver peut-être l'origine du problème. Est-ce qu'on est plus sur quelque chose de musculaire, articulaire, postural, voilà, bon, ce genre de choses, tu vois. Je sais pas si toi ça te le fait ça.
C'est tes derniers mots qui me semblent hyper intéressants, c'est les mots où tu dis ça m'aide à diagnostiquer. En fait, c'est-à-dire que par les douleurs que le patient te communique, toi, il y a tout un schéma qui est déjà existant dans ton cerveau à toi, parce que tu as analysé tes douleurs à toi, qui font que tu es capable de faire un chemin, un raccourci vers les tissus qui posent problème, sans avoir eu à poser les questions au patient. Et là, tu vas lui dire, alors attendez, parce que là, vous me dites, vous avez mal en bas à droite. Moi, j'ai eu ça il y a 2 semaines, et c'était lié avec des douleurs au niveau du ventre. Est-ce que vous aussi, c'est ça, par exemple? Et la personne va dire, bah ouais, j'ai des douleurs de ventre. En fait, t'as gagné du temps. C'est exactement comme cette histoire de préparateur physique qui a pratiqué le sport ou pas. Le fait d'avoir expérimenté la pathologie, t'as déjà réfléchi autour de cette pathologie. Mais maintenant, si jamais tu ne l'as jamais vécu, que je te donne un premier patient, bah, tu vas galérer à trouver, et puis lui va pas forcément te donner les réponses que t'attends, parce qu'il sait pas ce que t'attends, il sait pas ce que tu cherches. Mais si t'arrives à trouver ton chemin, et que t'arrives à le guérir, la prochaine fois qu'un patient comme lui se présente, il te faudra 4 fois moins de temps. Et la surprochaine fois que quelqu'un va se présenter, il t'en faudra 6 fois moins. Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends. C'est un peu le schéma. Le schéma reste le même, que tu l'aies expérimenté toi-même par tes propres sensations ou alors par l'expérience de ce que tu as eu en tant que patient qui t'a raconté des choses. Le schéma de pensée, en tout cas le fait de retrouver l'origine ou le schéma lésionnel, en fait, il va beaucoup plus vite. Que tu l'aies expérimenté toi-même ou que tu l'as vu plusieurs fois. C'est ça, hein, je comprends bien.
C'est ça, et le fait que toi, tu l'aies vécu personnellement, il y a des réponses à cette pathologie que tu as. Je sais pas si tu comprends bien ce que je veux dire, mais en fait, le patient, lui, il sait pas ce que tu recherches. Et peut-être que pour lui, le fait que ça le réveille à 4h du matin, c'est pas important. Et donc, si jamais tu poses pas cette question à ce moment-là, tu vas passer à côté. Alors que si toi, tu as eu la même douleur que lui, tu as une quantité d'informations énormes qui sont en fait tes expériences.
D'accord, ouais, bah c'est... Ce qui est assez logique, en fait, quand on y met les mots dessus, au final.
Je pense vraiment que c'est là la clé de... du temps gagné à vivre les pathologies. Parce que franchement, moi, j'ai pas très envie de vivre toutes les pathologies de mes patients pour pouvoir mieux les soigner.
Ouais, non, mais ça paraît complètement logique et ça fait partie de l'expérience qu'a un thérapeute aussi. S'il l'a ressenti lui-même, s'il l'a vu énormément de fois, c'est vrai qu'aussi, des fois, t'as pas nécessairement besoin d'avoir ressenti la douleur pour y poser une compréhension pour voir de quoi il s'agit. Je vais prendre un exemple tout simple. C'est vrai que plusieurs fois, je peux avoir des gens qui viennent me voir, qui pratiquent notamment la musculation et qui ont des douleurs dans l'épaule sur certains mouvements comme le développé couché ou comme le fait de lever une haltère sur le côté, l'élévation latérale pour les puristes, avec une explication de la douleur qui se trouve lorsqu'il lève l'épaule un peu au-dessus de la tête, lorsque la douleur elle vient un petit peu derrière l'épaule et puis elle diffuse sur le côté. Tu vois, ce genre de choses. On est d'accord que c'est le supraépineux est forcément touché, enfin en inflammation dans un sens. Pour quelle raison, pour quelle cause? On va essayer de le trouver, hein. Ça va être notre objectif, d'essayer de décomprimer un peu la zone, décomprimer l'épaule et puis redonner de l'équilibre à la structure. Mais moi, par exemple, c'est pas une douleur que j'ai forcément ressentie. Pourtant, les symptômes sont tellement, on va dire, pas simples, mais tellement récurrents. Et ouais, puis c'est, on sait que c'est une pathologie qui arrive extrêmement fréquemment. C'est ça. Et heureusement, j'ai envie de dire qu'on n'est pas obligé de ressentir chaque douleur parce que le médecin, lui, l'a appris.
C'est
tout. Parce que si à chaque fois qu'il devait poser un diagnostic de cancer, il avait été obligé lui-même de le ressentir, c'est un peu bizarre.
De le vivre.
Ouais. ce qui m'amène peut-être à l'interrogation que j'avais aussi, c'est ton parcours d'éducateur sportif et le fait d'aider directement dans le sport à donner peut-être des vraies indications, des programmes d'entraînement, d'avoir cette connaissance. Et peut-être aussi d'avoir expérimenté toi-même la musculation, d'en avoir fait pas mal. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé à être un meilleur kiné? La réponse est évidemment oui, j'imagine, un meilleur kiné ostéo. Et est-ce que être kiné ostéo t'a amené à être meilleur dans la conception de programme parce que t'avais vraiment cette approche anatomique, physiologique?
Alors, il y a deux choses. Le fait d'avoir pratiqué du sport, je pense, te rend effectivement meilleur en tant que kiné ostéo, tout simplement par rapport à la position de ton corps. Le fait de pratiquer une activité physique te fait beaucoup mettre en place des schémas moteurs, etc. Moi, quand j'ai appris les manipulations en ostéopathie, ça a été beaucoup plus rapide pour toutes les personnes qui étaient sportives, ont appris beaucoup plus rapidement les manipulations que ceux qui ne l'étaient pas du tout. Parce que le placement du corps, en voyant le placement d'un prof, ben, ils arrivaient à le reproduire de manière beaucoup plus rapide que quelqu'un qui en avait jamais fait. Ensuite, est-ce que le fait d'être kiné-ostéo m'a aidé à pouvoir faire des meilleurs programmes? En fait, moi, j'ai jamais travaillé autrement. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de programme à des gens en dehors d'un cadre de soins. J'ai jamais fait en dehors de la santé. Donc, en fait, tout ça, je l'ai mis en place au même moment.
Donc j'ai pas eu d'avant après en mode je fais des programmes uniquement en tant qu'éducateur sportif, puis j'ai rajouté ma compétence de kiné ostéo. Comme je t'ai dit, j'ai commencé kiné, on a eu la validation d'éducateur sportif en cours de route. Donc en fait, j'avais déjà plus ou moins toute cette vision santé et rééducation quand j'ai proposé mes coachings.
Et comme t'es ostéo, tu fais partie des, comme on appelle, des praticiens de première intention, c'est-à-dire qu'on peut venir te voir sans nécessairement passer par la case médecin. Mais t'es aussi kiné, ce qu'on appelle, je pense, tu vas me dire si je me trompe, le kiné, il est à la fois première et deuxième intention, c'est-à-dire qu'on peut venir directement chez lui, mais on peut aussi passer par le médecin qui fait une prescription pour aller voir le kiné. Est-ce que jusque-là, je suis bon?
Alors, le kinésithérapeute a le droit de faire des soins bien-être, entre guillemets, sans ordonnance. En revanche, tous les soins thérapeutiques sont sous ordonnance en France.
Ok, d'accord. Donc le kiné, s'il veut être pleinement dans son champ d'expertise et dans son rôle, il faut que le patient ait été voir le médecin avant, qu'il ait une prescription pour aller consulter son kiné, pour que le kiné fasse exactement ce qu'il faut pour la rééducation. Donc, t'as donc ces deux casquettes, enfin ces deux casquettes, même trois casquettes, on va dire. Mais si quelqu'un vient te voir directement, par exemple pour une séance d'ostéopathie, donc tu n'as pas eu, il n'est pas passé par le médecin auparavant, il n'y a pas eu de diagnostic. On est d'accord pour dire que l'ostéopathe n'a pas le droit au diagnostic. Enfin, le diagnostic médical, comme on l'entend, il ne peut pas l'émettre, sinon s'il est considéré comme de la,
ouais,
je sais pas comment on dit, la médecine.
Exercice illégal de la médecine.
Voilà, c'est ça. C'est ça. Et par contre, le kiné, est-ce qu'il peut faire des diagnostics ?
Eh bien, comme l'ostéopathe, pour contourner un peu ces histoires juridiques qui n'ont aucun sens mais qui existent, eh bien, le kinésithérapeute fait du diagnostic kinésithérapique et l'ostéopathe fait un diagnostic ostéopathique.
Ouais, bon, voilà. On joue avec les mots pour finalement faire à peu près les mêmes choses.
De toute manière, si tu fais pas un diagnostic, parce que chacun fait le diagnostic à son niveau d'action, le médecin va faire un diagnostic médical. Mais si toi, t'es kinésithérapeute, il arrive qu'on t'envoie un patient, moi j'ai des ordonnances où il y a marqué kinésithérapie pour douleur d'épaule. Bon, bah, il n'y a pas de diagnostic. Normalement, le médecin est censé le faire. J'appelle le médecin, bah, vous m'avez pas mis de diagnostic. Bah ouais, mais je sais pas trop ce qu'il a, moi. Bah, est-ce que je suis pas obligé de faire un diagnostic? Alors oui, je vais pas l'écrire en grand et le crier en grand, c'est moi qui ai fait le diagnostic médical de cette personne, mais j'ai pas le choix pour pouvoir choisir mes outils que d'au moins poser une hypothèse diagnostique de savoir qu'est-ce que je traite.
Ah ouais, parce que pour traiter, faut connaître quel est le problème. On rappelle qu'un diagnostic, c'est un gros mot, mais c'est juste en fait trouver quel est le problème, parce que quand douleur d'épaule, c'est pas un problème, c'est pas un problème, c'est pas une cause. Ça révèle pas le souci. Par contre, une tendinite, admettons, une tendinite du supraépineux, là, on est sur un diagnostic, puisque c'est le muscle qui pose problème. Oui. On a trouvé ce qui va pas, hein, le problème structurel à la limite. Après, pourquoi c'est ça qui est difficile des fois, hein, c'est le cause-conséquence, c'est que le diagnostic, admettons, il va être la tendinite, mais qu'est-ce qui cause la tendinite? Ça peut être un problème ailleurs, et pourtant, le problème ailleurs n'est pas considéré comme le diagnostic.
Absolument. Après, dans tous les cas, toutes ces choses-là, ça me fait un petit peu rire de temps en temps, dans le sens où y en a qui vont se battre si jamais on dit j'ai posé un diagnostic, ils vont venir nous embêter en disant ah mais toi t'as pas le droit de faire un diagnostic. Bah mettons un autre mot. J'ai identifié le problème. Mais peu importe, on s'en fiche, c'est la même démarche. Et le but, on a tous le même but, c'est de soigner des gens et au moins de les accompagner dans leurs soins, quoi.
C'est ça. Et peu importe finalement comment on appelle les choses, les gens quand ils viennent c'est pour aller mieux, donc c'est notre objectif principal. Des fois on est obligé de faire attention à tout ça d'un point de vue juridique. Bon, c'est des considérations. Bref, quelqu'un vient te voir. Non, on va prendre les choses plus simplement plutôt. C'est moi, je vais te poser la question directement. Si je viens te voir parce que j'ai une blessure, comment il faudrait que je reprenne le sport de manière générale? Est-ce qu'il y a des grands principes et est-ce que je dois attendre longtemps pour reprendre une activité sportive, ou alors il faut le faire très vite? Et j'imagine, je sais que ça dépend vraiment des cas. Je veux dire, on va pas considérer la même chose à quelqu'un qui s'est fait une fracture qu'à quelqu'un qui a une petite foulure de cheville, on va dire. Mais est-ce qu'il y a des grands principes derrière la reprise d'une activité sportive après une blessure?
Alors, ce que moi j'explique à mes patients, c'est que je ne demanderai jamais d'arrêter de bouger. Donc, en fait, on n'arrêtera jamais une activité sportive. Et ce, qu'il y ait fracture, qu'il y ait rupture tendineuse, qu'il y ait rupture ligamentaire, je m'en fiche. Et je vais préciser mes propos. En revanche, je vais demander d'adapter. Ce qui veut dire que si la personne s'est fracturé le tibia, il est évident que je ne vais pas lui demander d'aller faire des squat jumps. En revanche, si une personne s'est fracturé le tibia et qu'elle a la possibilité d'aller bouger son genou parce que la fracture n'est pas sur la partie haut du tibia mais partie basse, eh ben on va continuer à faire bouger tout ce qu'on peut, tout simplement parce qu'on sait que bouger, dans tous les cas, ça va faire circuler le sang, ça va favoriser tous les systèmes de récupération. Donc une personne qui me dit « est-ce que je dois arrêter le sport ?», ma réponse elle est systématiquement non, mais par contre vous allez devoir l'adapter. Donc si jamais la problématique est au niveau du membre inférieur, on va faire tout ce qu'on peut faire. Et on va, on appelle ça quantifier le stress mécanique, mais simplement dire « ok, aujourd'hui, à ce stade-là, on va se servir des douleurs de la personne pour déterminer jusqu'à combien de contraintes on est aussi capable d'aller, ou peut-être qu'il y a un montage chirurgical, et dans ce cas-là c'est le chirurgien qui nous dit jusqu'à combien de contraintes on peut aller sans poser problématique par rapport au montage, et on va déterminer le stress mécanique qu'on peut appliquer. Et ensuite, on va faire un stress mécanique qui va être progressif, de telle sorte à ce que les tissus puissent se réhabituer de manière progressive, se renforcer, etc., jusqu'à ce qu'ils soient capables de supporter l'activité qui était l'activité du départ, celle qu'on a comme objectif à retrouver.
Et à partir du quand tu penses que le sport peut entraver la récupération ou entraver le processus de cicatrisation au lieu de l'améliorer ou d'aller dans son sens? Est-ce que la limite elle est fine, elle est assez grande?
Alors non, je pense que la limite effectivement est très fine. Entre quelque chose, comme je te disais, si tu quantifies un stress mécanique, et je vais donner des échelles, comme ça, ça peut parler à tout le monde, si on dit que 10, c'est ce que vous devez supporter pour pouvoir pratiquer votre activité sportive, qui est par exemple du tennis. Et que là, avec votre blessure, eh bien, on estime que vous êtes capable de supporter 5. Si jamais on monte à 6, on devient délétère. Ben, effectivement, si on passe notre temps à... C'est là que c'est un peu compliqué et qu'après, je pense que c'est avec l'expérience qu'on acquiert certaines choses. C'est que si on flirte avec le 5 de manière très précise, on a une augmentation de la vitesse de récupération. Par contre, si on flirte avec le 6, eh ben là, on est plutôt dans l'inverse. On en fait trop et un tissu en hypersollicitation va passer en état pathologique. Donc, dans ces cas-là, je crois qu'on a toujours notre principe de primum non inséré, c'est-à-dire que dans tous les cas, il faut pas faire de mal. Donc, si jamais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, eh ben si j'estime que j'ai le droit à 5, mais que je sais pas tout à fait où est mon 5, ben, je vais tabler sur mon 4. Comme ça, je suis sûr que je suis au moins à pas faire de mal à la personne et que je suis dans la fenêtre qui lui permet au moins de récupérer.
Et quand tu donnes ces chiffres 4, 5, 6, est-ce que c'est des chiffres qui sont subjectifs par rapport à ce que ressent le patient? On sait que tout ce qui est... Justement, il y a des gens, ils vont considérer un 6 comme un tel niveau de douleur, et puis ce même niveau de douleur, d'autres personnes vont le considérer comme un 9 ou comme un 3. C'est toujours comparativement à ce qu'on a ressenti dans le passé. Donc, et là, du coup, ben moi, ça me pose la question de comment savoir dans ce cas-là si c'est subjectif. C'est hyper compliqué de juger justement. Alors, et si c'est pas ça, est-ce que c'est peut-être par des niveaux de tests, les outils que tu as toi, qui te permet de savoir si tu es à 5, à 10 ou à 2?
Ben, je vais prendre un exemple très concret parce qu'en fait, ces échelles-là, c'était pour essayer de conceptualiser la chose. Je vais te prendre un exemple très concret. J'ai un patient parachutiste. Qui à l'atterrissage, il y a eu un accident, il s'est fait éclater le pied parce qu'il était en tandem en fait. Tu vois, il est moniteur de parachute. La personne lui est tombée sur le pied et lui a fracassé le pied. Donc il s'est retrouvé avec un fixateur. Enfin, il avait des broches, etc. Et il a fini par revenir en rééducation. Mais en fait, pour quantifier le stress mécanique, je me sers énormément de la douleur. Si jamais mon patient me dit, bah là aujourd'hui, tout l'exercice de stabilisation, j'ai pas de douleur. Par contre, si je monte sur la pointe du pied, ça me fait mal. Ben, je sais que par rapport à mon avant-pied, la contrainte de tout le poids du corps en pointe de pied, c'est trop fort pour l'instant. Donc tous les exercices qui vont être sur la pointe du pied, il peut y en avoir plein, ça peut être une fente sautée, n'importe quoi, tout ça, je sais que pour l'instant, c'est pas possible. Je vais essayer de jamais me retrouver dans cette situation-là pour l'instant. Par contre, il me dit monter sur la pointe du pied, ça me fait mal. Ok. Et si jamais tu le fais avec les deux pieds, est-ce que ça te fait mal? Bah non. Quand je le fais avec les deux pieds, si jamais j'appuie plus sur le pied opposé, j'ai pas mal à droite du tout. S'il a pas mal à droite du tout, ben en fait, je sais que mon stress mécanique, il est là. Pour pouvoir venir ressolliciter la pointe de pied, il va falloir que je le fasse avec les deux pieds au départ et qu'au fur et à mesure, j'aille mettre de plus en plus de poids sur ce pied qui n'était pas capable d'en supporter au départ. Et il y a des fois où je vais faire une séance et on va dire, bah tu vois, il y a peut-être avant le confinement, j'ai dit, bah aujourd'hui, ça me semble pas mal au niveau des délais, on va essayer de réintégrer les sauts. Parce qu'il avait plus trop de douleur sur pointe de pied, etc. J'ai dit, on réintègre les sauts, mais on va en faire juste 10. On fait 10 petits sauts sur un pied et on voit comment t'es demain. Et le lendemain, il m'a dit, j'ai eu mal toute la soirée. Bon, bah voilà. Clairement, on est monté sur le 5,5, 6 quoi. Donc je sais que pour la suite, il va falloir que je fasse un pas en arrière. Mais sur le corps humain, c'est pas une science exacte. On sera toujours obligé d'aller à tâtons. Et c'est un peu comme dans une entreprise, à un moment donné, si tu n'essayes pas de te lancer de temps en temps, bah il y a des fois ce petit palier que tu vas pas réussir à déclencher. Donc je teste de temps en temps, et si ça se passe mal, bah écoute, au pire, la personne elle aura mal la soirée. Hein. Si jamais t'as pas fait un truc de fou avec une charge de 70 kg sur le dos, que t'as pas zappé toutes les étapes, il n'y a pas de raison qu'elle flambe énormément.
Je vois, c'est vraiment un enchaînement de essais-erreurs. Test, retour, ouais, test, retour, absolument. Pour essayer d'affiner le plus possible.
Absolument, parce que comme tu le disais, chaque patient est unique, et si ce patient-là, à 3 semaines, il est capable de sauter sur un seul pied, peut-être que j'aurai un autre, peut-être même sportif de haut niveau, qui arrivera en 1 semaine, et un autre qui mettra 6 semaines. Et il n'y a qu'en faisant de l'essai-erreur que tu peux apprendre à connaître ton patient. Comme un préparateur physique apprend à connaître son athlète, hein.
Je vois, ouais. Pour essayer de rentrer un peu plus dans quelque chose de concret sur des blessures, j'ai envie de prendre juste 3 exemples. Comment on reprend le sport, déjà dans un premier exemple, quand on a eu une entorse de genou? On va dire les grands principes, les grandes lignes chronologiques.
Alors, une entorse de genou, dans tous les cas, je préconise une rééducation. Ce qui veut dire que les gens arrivent en rééduc, me demandent est-ce que je peux faire mon sport? La question est simple, est-ce qu'aujourd'hui, dans votre activité de tous les jours, quand juste vous assurez vos actions de la vie de tous les jours, donc c'est marcher, aller chercher les enfants à l'école, ou bref, faire comme d'hab, est-ce que vous avez mal? Si la réponse est oui, aller mettre une activité physique autre que la rééducation, pour moi, va être délétère. Ça sert à rien de vouloir monter plus haut que les exercices qu'on est déjà en train de faire en rééduc. En rééducation, on cherche... Moi, en tout cas, je cherche l'indolence pendant l'exercice, ou alors, sur certains exercices qui vont être musculaires, on sait que tu peux solliciter un muscle et que ce soit gênant. Si jamais t'as pas une sensation musculaire quand tu travailles un muscle, il se passe rien. Mais en tout cas, pas la douleur de la pathologie. Donc moi, je cherche à ne pas déclencher cette douleur. Sur certaines conditions très précises, comme des douleurs dues à des lésions musculaires, où là, on va pouvoir accepter que ça fasse un peu mal au départ. Mais pareil, je dis à la personne, 0 pas de douleur du tout, 10 la pire douleur que vous puissiez imaginer, on aura le droit de monter jusqu'à 3 ou 4. Ça, c'est ce que les études scientifiques aujourd'hui montrent. C'est subjectif par rapport à la personne, mais a priori, ça fonctionne bien de manière répétée sur un pool de patients très développé. Donc voilà, ensuite, si cette personne-là n'a plus du tout mal dans la rééducation, dans la vie de tous les jours, et les exercices que je lui donne, là, je lui dis, on va recommencer avec des exercices, de l'activité physique, du sport, et on voit ce que ça donne. La première fois, si vous faites de la course à pied, allez courir 1 quart d'heure et voyez comment ça se passe le soir. Si jamais il n'y a pas de douleur particulière, eh bien le lendemain ou 2 jours après, vous allez courir 1 demi-heure. Si jamais 1 demi-heure, ça déclenche des douleurs, eh bien vous revenez à 1 quart d'heure. Et on va faire 1 quart d'heure pendant 1 semaine, 1 semaine et demie, et on réessayera 1 demi-heure. Et c'est exactement ce que je fais en soins. On fait de l'essai-erreur. Et si la demi-heure, elle passe bien, sans douleur, sans inflammation le soir, nickel, vous restez un peu sur 1 demi-heure et on essaiera 45 minutes dans 1 semaine.
Ok, le squat, dans ce schéma-là, est-ce que tu le fais intervenir en milieu de reprise comme ça, par exemple sur la course à pied, en admettant que le premier niveau ça soit de démarrer la course à pied de 15 minutes et ensuite passer à 30 minutes et puis ça va, à partir de quel moment par exemple tu intègres du squat, et si jamais tu l'intègres ou pas, Est-ce que tu penses que ça a un intérêt pour le genou, que ça soit bénéfique ou délétère?
Ouais, le squat, je le réintègre très tôt, mais je le réintègre en kiné, en fait. Donc moi, la plupart des gens qui vont retourner courir ont déjà exploré toutes les amplitudes de leurs genoux et ont vu que leurs amplitudes leur faisaient pas mal, ont déjà exploré pas mal de choses sur le plan fonctionnel, arrivent à descendre en position de squat. Après, même si c'est pas un squat profond tout en bas, eh ben, on va réintégrer le squat, et si vous pouvez faire que 60 degrés sans douleur, eh ben, on va faire des séries de squats jusqu'à 60 degrés, et on descendra pas à 70. Et puis, en fait, le tissu, quand tu le stimules, il finit par réagir. Et puis, bah, au bout d'une semaine, ils vont me dire, attends, mais en fait, là, j'arrive à descendre plus bas sans douleur. Eh ben, là, ok, on pourra faire du squat plus bas, et on exploitera toujours l'amplitude sans douleur. Moi, c'est ma façon de fonctionner, et je fonctionne beaucoup sur les modulations de symptômes et tout ça. J'essaye de faire en sorte de solliciter tout ce qu'on peut dans ce que le corps nous permet.
Ouais, c'est très logique. On est sur enfin, tu adaptes en fait. Le corps s'adapte petit à petit à la contrainte que tu vas lui imposer. Et puis toi, t'as cette manière de le faire de manière très progressive avec un feedback très précis. Pour gagner progressivement. Sur un deuxième exemple, peut-être, comment on reprend le sport après une hernie discale?
Alors, la question que moi, ça me pose, c'est quand est-ce qu'on arrête le sport pour une hernie discale?
Alors, on va prendre l'exemple d'une hernie discale un peu aiguë, qui s'est manifestée par un gros blocage au niveau du dos, au niveau des lombaires. C'est la personne qui ne peut plus se lever le matin parce que la veille, soit elle s'est bloquée, soit elle a fait... elle a mis trop de tension au niveau de ses lombaires, elle est bloquée, elle est allée voir peut-être son ostéo, son kiné, qui l'a partiellement soulagé, en tout cas qui lui a permis de marcher un petit peu, de reprendre sa mobilité, mais il y a vraiment de grosses douleurs, il peut pas se pencher, il n'ose pas se pencher. Là on prend un cas clinique, par exemple l'ostéo ou le kiné en question lui a recommandé après la séance de, si ça persiste un petit peu, ou même si ça persiste pas nécessairement, mais de quand même passer par une radio. On va dire qu'on est en France et que c'est extrêmement facile d'aller vite à avoir une radio, un examen qui va peut-être confirmer la présence d'une hernie. Admettons c'est le cas, c'est confirmé, ou alors on décide de passer sur directement un IRM pour aller être vraiment dans la précision. On voit qu'il y a une hernie qui est là, il y a un pincement discal qui peut provoquer une sciatique. On rappelle donc qu'il y a le noyau du disque sort, fait hernie et vient comprimer une racine nerveuse. Ça provoque des douleurs du type sciatique avec la diffusion vraiment et le trajet du nerf sciatique derrière la jambe, le classique que tout le monde connaît plus ou moins. Donc on est vraiment dans ce contexte-là. Et donc là, la personne, elle est avec son hernie, un petit peu embêtée en se disant, bon ben voilà, maintenant, est-ce que je vais pouvoir reprendre le sport et comment je vais faire?
Ouais. Alors, par rapport à tes questions, mes réponses te plaisent pas forcément, parce que je te dis qu'en fait, on n'arrête jamais. Mais j'ai fait énormément de vidéos pour lutter un peu contre toutes ces pensées limitantes qu'on a avec la hernie. Parce que dans 90% des cas, les hernies discales ne sont pas forcément à l'origine de la symptomatologie. Une symptomatologie douloureuse, la hernie n'est gênante que quand elle est compressive. Et une vraie hernie exclue, une grosse hernie compressive, va générer des paresthésies ou des troubles moteurs. Donc c'est les gens qui vont me dire « j'ai une sensation de fourmillement » ou « j'ai des pertes de force dans la jambe », etc. La douleur, en elle-même, seule, n'est pas un signe d'alerte pour moi. La personne peut avoir extrêmement mal. Si tous mes tests neuro sont nickel, c'est pas grave. Ce qui veut dire que la personne, elle peut être vraiment dans un très mauvais état et que je vais lui dire, bah écoutez, en fait, c'est pas grave, vous avez mal et le rôle de votre nerf, c'est de véhiculer la douleur. Donc en fait, tant que vous avez mal, c'est que votre nerf va bien. Moi, j'ai eu un patient qui est venu au cabinet et le mec me dit, eh ben, je suis super content parce qu'en fait, j'avais vraiment très très mal au dos depuis une semaine, mais là on a pris rendez-vous et ce matin je vais vachement mieux, j'ai plus du tout mal, par contre je peux plus lever le pied. Ah bah lui, j'ai appelé les urgences directes. La personne n'avait plus du tout mal, elle était persuadée que tout allait mieux, mais la perte motrice, le fait qu'elle puisse plus actionner les muscles qui relèvent son pied, ça pour moi c'est un signe par contre qui est beaucoup plus grave que la douleur. Donc quelqu'un qui vient par exemple pour un lumbago, même si jamais il y a une hernie discale présente, qu'on l'a vu aux examens, la hernie, elle était probablement là, même avant le lumbago. Donc en soi, je vais pas forcément me dire oh, « il y a une hernie, mince, je peux plus toucher ». Non, toujours pareil, on va remettre du mouvement,
on va continuer l'activité physique. Alors c'est sûr, si la personne faisait de la Zumba quand elle a fait son lumbago, on va pas faire de la Zumba pour guérir son lumbago. Ça veut dire qu'à ce moment précis, la Zumba était une sollicitation trop importante pour ses tissus, et c'est pas capable de le supporter. Donc on va repartir sur des sollicitations beaucoup plus basses. Et des fois, oui, une sollicitation plus basse, bah c'est juste faire des flexions, extensions de la cheville pour faire des mobilisations neurales. Des fois, c'est ça. Mais il faut juste réussir à remettre le curseur pour trouver ce qui est supportable.
J'adore tes réponses parce que je te pose des questions, en fait, comme très souvent on les retrouve dans la patientèle. Moi, c'est des questionnements qu'on peut me poser, c'est des choses qu'on voit encore régulièrement. Et je suis tout à fait d'accord et dans ce principe-là. Et je le dis, en fait, très souvent, c'est vrai que la symptomatologie ne garantit pas forcément d'avoir le problème. Et là, comme tu le dis, effectivement, l'hernie, elle est probablement, il y a de très grandes chances qu'elle soit là depuis un moment, en fait. C'est quelque chose qui est progressif. Et c'est extrêmement difficile, des fois, justement, de faire comprendre, ou d'essayer d'expliquer que le sport, en tout cas, continuer l'activité physique, modérée, alors, comme tu l'as dit, qui est raisonnée, si tu t'es fait mal à la Zumba, tu vas pas refaire de la Zumba le lendemain, une heure à fond, intensité 10, quoi. Donc, c'est tout à fait ça, c'est tout à fait ça. Et très souvent, justement, c'est ça qu'on voit, c'est que les personnes qui ont ce genre de problématiques, c'est justement des personnes qui ne pratiquent pas ou plus l'activité physique. Ça peut paraître hyper contradictoire, mais bizarrement, c'est... Si tu fais moins d'activité physique, tu vas commencer à avoir ce genre de symptômes, ce genre de problèmes. Toute proportion gardée, évidemment, on va dire je généralise. Alors quelqu'un qui n'en fait pas ou qui décide lors d'un processus de récupération de ne pas du tout faire de sport parce qu'il se dit que ça va pas être bon, en fait il met moins de chances de son côté en fait pour récupérer. On en revient toujours à cette idée d'adaptation. Si tu arrêtes de mettre le corps sous une certaine contrainte. Ou une certaine faculté à se bouger, en fait, il a plus réellement de raison de guérir, de se réadapter et de ne pas manifester ce genre de symptômes.
Absolument. Le seul cas où je préconise du repos, c'est dans les cas d'hypersollicitation. Si j'explique aux gens, si vous êtes cassé un tibia, c'est une hypersollicitation pure pour l'os, il n'avait pas la capacité de supporter ça, il est cassé. Il faudra du repos au niveau du tibia, au moins au départ. Pendant la mise en place du processus inflammatoire et du cale osseux, il faut du repos. Mais c'est du repos local. Il faut que le tibia se repose. Mais les fessiers, les hanches, le haut du corps, tout ça, il n'a pas besoin de repos. Donc ça, on peut continuer à le faire fonctionner. Et au contraire, ça va favoriser tout ce qui est vascularisation générale. Ça va favoriser la récupération.
Ah bah c'est parfait, justement, parce que ça m'amène à mon troisième exemple que je m'étais noté. Qui est la tendinite de l'épaule. Là aussi, c'est encore un vaste sujet. On pourra en faire un podcast à part entière sur la tendinite, les causes, les conséquences, etc., etc. Si on part vraiment du principe d'une tendinite qui a pour cause majoritairement la sursollicitation, admettons. Peut-être que tu vas déjà me contredire par rapport à ça, mais là, on est sur un phénomène de sursollicitation, sur par exemple une tendinite, le fameux épicondylite par exemple du tennisman qui fait beaucoup de tennis. Il a une douleur, le tennis elbow, il a une douleur au niveau de l'avant-bras des muscles épicondyliens. Admettons, on part du principe de base que c'est parce que ces dernières semaines il a fait énormément d'entraînement parce qu'il avait des matchs à préparer et donc il y a une sursollicitation de ce tendon-là. À ce moment-là, est-ce que tu préconises l'arrêt du sport et comment il la reprendrait?
Alors, il y a un problème dans les noms qu'on donne. C'est-à-dire que autant on est capable de te dire de faire la différence entre tendinite et tendinopathie. La tendinite, c'est une inflammation du tendon. La tendinopathie, c'est une pathologie du tendon qui, en général, se traduit par une fibrose du tendon. Et par contre, tu remarqueras qu'il n'y a pas d'épicondylopathie. On dit que épicondylite. Alors que pourtant, dans les épicondylites, il y a exactement la même chose. Tu as l'épicondylite du mec qui fait jamais de tennis. Et ce week-end, il y avait son beau-frère qui est venu, il adore le tennis, et ils font 3 heures de tennis. Et le lendemain, le mec a mal au coude. Ben, ce gars-là, je vais lui dire, repose-toi. Repose-toi pendant 2-3 jours, c'est un phénomène inflammatoire, c'est la première fois que ça t'arrive, et tout va très bien se passer. La personne qui dit, moi j'ai commencé à avoir mal il y a déjà 3 semaines, mais j'ai continué à jouer dessus. Donc lui, il a fait son épicondylite au départ, son inflammation, dans laquelle il aurait dû mettre un peu de repos, mais comme il savait pas trop ce qu'il fallait faire, il a pas mis de repos, il a continué à jouer dessus, ou peut-être même qu'il est jardinier et qu'il a continué à faire du sécateur dessus, auquel cas il n'a pas donné le repos dont le tissu avait besoin, et le tissu va réagir pour répondre à la contrainte. Et la meilleure chose qu'il puisse faire pour répondre à une contrainte, c'est de faire de la fibrose. Tu me laisses pas cicatriser? Bah t'inquiète, je vais mettre un tissu rapidement, un tissu beaucoup plus résistant, certes qui est pas capable d'assumer l'élasticité nécessaire, mais c'est pas grave. Je me trouve la meilleure solution que je puisse avoir. Ça, c'est la réaction du corps. Et du coup, si c'est une épicondylopathie, comme moi je dirais, dans ce cas-là, il n'est pas question d'arrêter. Parce qu'au contraire, le tendon est pathologique, il va falloir repartir de plus bas pour c'est ce qu'on appelle la mise en charge progressive, c'est lui redonner des contraintes progressives pour qu'il accepte de remodifier sa structure et qu'il redevienne avec une souplesse et une élasticité normale. En revanche, oui, comme je t'ai dit, la personne qui arrive et qui me dit « j'ai jamais eu mal là, j'ai fait 4 heures hier de sport et j'ai mal ici », je dis « repose-toi 24 à 48 heures et tu verras que déjà la douleur va disparaître ».
Ouais, on est vraiment dans deux processus complètement différents. J'espère réellement que ça va apporter de la substance là aux personnes qui ont des tendinites ou qui se posent ces questions. C'est tellement répandu, le tennis elbow, c'est aussi quelque chose qui est très très répandu. Je pense que si tu regardes sur Google, c'est extrêmement recherché.
Il y a beaucoup de liens qui font que certaines personnes n'arrivent pas à les résoudre parce qu'ils se focusent sur le tennis elbow et des fois c'est le problème est la douleur est là et le problème vient pas de là. Ça c'est encore un autre sujet.
C'est encore un autre sujet, ouais, exactement, parce que entre le problème qui se manifeste et la véritable origine, des fois, il y a un temps de latence, il y a un délai, et avec une chaîne qui s'est mise en place, et c'est le dernier, peut-être pas le dernier maillon de la chaîne, mais en tout cas, on va dire que c'est un maillon de la chaîne plus loin qui manifeste son problème parce qu'il a en totale décompensation, on va dire. Enfin, c'est très ostéopathique, cette façon de penser. Qu'est-ce que toi t'arrives à inclure une approche extrêmement ostéopathique comme ça à celle d'une approche kinésithérapique dans une même séance?
Oui,
peut-être
en fait...
je sais qu'on là c'est un peu politique maintenant parce qu'il faut pas faire de l'ostéo dans une séance de kiné parce que tu mélanges les ceci cela et puis mais bon, tu vois l'idée hein, vraiment sur l'approche.
Absolument. En fait, moi dans mes activités, j'ai mes séances kiné, mes séances ostéo. Les techniques, la boîte à outils, il existe une boîte à outils de kiné et il existe une boîte à outils d'ostéo. En revanche, la personne qui utilise la boîte à outils, celle-là, c'est une seule et même personne. Donc quand tu vas voir quelqu'un, j'aime bien dire aux gens, vous n'allez pas voir David kiné, vous n'allez pas voir David ostéo, vous allez voir David thérapeute. Et David thérapeute, il a appris plein de façons de réfléchir qui font qu'aujourd'hui, c'est David thérapeute. Est-ce qu'il fait de la kiné, de l'ostéo? En fait, je fais de la thérapie. Par contre, si les gens viennent me voir en kiné, j'estime qu'ils me demandent et que eux attendent que j'utilise ma boîte à outils kiné. Donc je vais utiliser.
Mais si toi tu penses par exemple que cette personne-là, ce qu'elle a le plus besoin, c'est un outil ostéo. Comment tu fais? Tu ne peux pas la traiter à ce moment-là et t'es obligé de la réorienter vers tes horaires d'ostéo, j'imagine.
Absolument. Alors c'est hyper rare qu'un problème soit exclusivement ostéo et qu'on puisse rien y faire en kiné. Mais ça arrive et ça peut arriver que j'ai un patient qui vienne et que le médecin me l'a envoyé pour de la rééduque, et que je dise au patient, écoutez, là, franchement, pour moi, une séance d'ostéopathie, ce serait vraiment beaucoup plus favorable pour votre problème que la prise en charge kiné que je vais vous proposer. Donc, je vous conseille qu'on fasse déjà une séance d'ostéo. En fonction des résultats, si jamais il reste des choses, on pourra se revoir en rééduque. Mais si jamais ça suffit, ça suffira. Et ça m'arrive, oui, d'avoir ce genre de situation, auquel cas, je les réoriente sur une séance d'ostéo.
Ok, bon, c'est toujours intéressant. Moi j'avais quand même deux petites questions qui étaient un peu plus personnelles où j'ai vraiment envie d'avoir la réponse parce que moi-même ça m'intéresse. Comment dire, c'est-à-dire que c'est évidemment tout ce qu'on a dit m'intéresse, je trouve ça particulièrement instructif, mais j'essaye aussi d'avoir des questions que peuvent se poser les gens, même si parfois derrière j'ai plus ou moins la réponse, en tout cas j'imagine où c'est que ça va aller. Mais là par exemple, tu vois, une question comme qu'est-ce que tu préconises ou quel type d'exercice tu fais faire pour lutter contre des troubles neurologiques? Voilà, donc par exemple quelqu'un qui a Parkinson, on va prendre cet exemple là qu'est-ce que tu lui conseilles de faire? Moi, ça m'intéresse parce que j'aurais pas nécessairement la réponse, tu vois.
Alors, la question est hyper intéressante, mais comme tout, t'as différents stades de pathologie. Donc, il y a des moments où, tu vois, par exemple, avec Instagram, on a énormément de problèmes là. des gens qui arrivent et qui me disent, bah, en fait, j'ai une entorse de cheville, qu'est-ce que je dois faire? Et je leur explique, mais entorse de cheville, ça, c'est un diagnostic, ça me dit absolument pas quelles sont tes capacités. J'ai des personnes qui, avec une entorse de cheville, arrivent au cabinet et me disent, moi, j'ai déjà repris le footing, j'ai pas du tout mal. Et j'ai d'autres personnes qui arrivent avec une entorse de cheville, et le même stade, hein, et qui me disent, j'arrive pas à lâcher les béquilles tellement j'ai mal. Clairement, on va pas pouvoir préconiser le même type d'exercice à l'un et à l'autre. Et sur Instagram, on nous demande beaucoup ça. Les gens sont beaucoup en attente de, bah, donne-moi la.
Ouais. Et au-delà, pour ajouter un tout petit détail, non seulement il y a cet aspect qui est complètement personnalisé en fonction du stade, etc. Et puis il y a aussi le type d'entorse, parce que les gens ils pensent qu'une entorse c'est une entorse, mais en fait une entorse globalement c'est une distension d'un ligament. Mais des ligaments il y en a plein au niveau de la cheville, donc ça peut être une entorse externe, une entorse interne. Donc ça rajoute encore plus de possibilités et de différences d'approche de traitement.
Ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'un ligament, par exemple dans le cas que tu dis, un ligament c'est un nom anatomique qu'on a donné pour différencier différentes structures. Mais un ligament, c'est un épaississement de la capsule. Donc, en fait, un ligament, c'est de la capsule. Et la capsule, elle englobe ton articulation dans les 3D. Donc, tu peux avoir un nombre de mouvements lésionnels juste énorme. Donc, c'est autant de traitements qui vont être différents.
Donc, si on reprend cette idée de Parkinson, en fait, ça va être la même chose. Il va y avoir une infinité de possibilités de choses à faire, mais est-ce qu'il y aurait des grands principes pour essayer de diminuer l'évolution de la maladie sans forcément donner des exercices précis, hein.
Alors après, pour tout, effectivement, pour chaque maladie on a des connaissances physiologiques, etc. On sait que Parkinson, on va avoir de plus en plus de problèmes de coordination. Donc je vais dire aux gens, en fonction des stades, ben, si jamais vous pouvez jouer par exemple d'un instrument de musique, vous aimez ça, ben, jouez d'un instrument de musique. Tout ce qui va être en rapport avec la coordination, je vais le développer chez eux. Qu'est-ce que vous aimez faire? Ah ben moi j'adore dessiner. Eh ben dessiner, ça développe la coordination, c'est pas mal. Il y a des problèmes d'équilibre. Qu'est-ce que vous aimez faire? Bah moi j'aime faire de la rando. Très bien. Bah si vous êtes encore capable de faire de la rando plutôt en montagne, faites-moi plutôt de la rando en montagne parce que ça va développer l'équilibre. Donc je vais aller travailler les différents paramètres, et pour reprendre ton exemple de Parkinson, grosso merdo, problème de coordination, problème d'équilibre, avoir et des problèmes pour débuter le mouvement. Donc je vais aller dire aux gens, allez travailler à débuter vos mouvements, travailler ces schémas moteurs là. Ensuite, Parkinson, on commence par exemple dans les études à se rendre compte qu'il y aurait une perturbation du microbiote au niveau intestinal. Bah ces gens-là, je leur dis attention à votre hygiène de vie. Globalement, tous les gens qui ont un problème neurologique, que ce soit Parkinson, Alzheimer et tout ça, faites attention à ce que vous mettez dans votre assiette. C'est juste essentiel. Et quand tu changes l'assiette de quelqu'un qui mange n'importe comment, bah, il te dit déjà que sur ses symptômes, en général, c'est le jour et la nuit.
Ok, ça te donne de bonnes indications par rapport à ça. Bon, j'avais d'autres questions sur d'autres maladies ou quoi, mais je pense que ça sera plus intéressant de le développer en détail, de manière beaucoup plus complète sur des épisodes futurs. Quelque chose que je m'étais pas nécessairement noté, mais que j'ai envie de savoir. En même temps, ça va permettre peut-être de mieux comprendre. Enfin, les gens déjà vont avoir une bonne idée de ce qu'il faut plus ou moins faire, de l'approche que tu as aussi. Est-ce que tu as établi des programmes en ligne, par exemple, ou est-ce que tu suis des gens à distance sur du coaching santé, comme tu l'appelles? Et comment tu organises ça, on va dire, d'une manière générale, si quelqu'un souhaite avoir recours à tes services?
Alors pour le moment, j'ai fait aucun coaching programme, pardon, c'est plutôt le terme. J'ai fait aucun programme générique, pour la simple et bonne raison que, comme tu l'as vu dans ma façon de réfléchir, pour moi, à partir du moment où tu fais du générique, et ben t'es plus dans le personnalisé et du coup t'es beaucoup moins pertinent vis-à-vis d'un problème lambda. Donc je ne fais que du coaching personnalisé. Comment ça se met en place? Les gens me contactent. Ils ont soit mon contact via le site internet qui est stocoachingsante.com, soit ils me contactent des fois par Instagram ou Facebook, enfin voilà, par les réseaux, tous les moyens sont bons. Et j'ai des patients aussi au cabinet qui me demandent pour mettre ça en place. Après, à partir de ça, je mets en place des questionnaires qui, moi, me permettent déjà de débroussailler le terrain, connaître les objectifs des gens, savoir s'ils ont des pathologies particulières. Je leur demande des photos. J'ai fait une formation qui s'appelle la méthode Busquet, qui donne quelques outils pour pouvoir analyser
Ouais, bah alors pour l'anecdote, ouais. J'avais son fils Yvan Busquet qui était dans ma promotion en école d'ostéopathie.
Trop bien. Ouais. Et lui du coup propose un système de lecture du corps sous forme dynamique, sous forme statique, etc. pour pouvoir déterminer s'il y a des faiblesses à certains endroits. Certains remettent en question les chaînes par manque d'études, mais malgré tout les résultats sont très intéressants et donc moi je m'en sers pour faire le bilan initial. Ensuite, si jamais la personne a des pathologies particulières, eh bien à partir du questionnaire initial qui est le même pour tout le monde, je vais créer un questionnaire sur mesure avec toutes les questions qui m'intéressent par rapport au cas de la personne pour savoir comment établir son programme. Et si jamais j'ai encore pas les réponses, je fais une visio. Je fais une visio où on parle ensemble pour voir qu'est-ce qu'il y a eu et ce que je dois faire. Après, je mets en place différents programmes. On fait un rééquilibrage alimentaire. On fait, alors c'est pas de la diététique, je suis pas nutritionniste. C'est simplement revoir un peu les bases de l'alimentation pour manger sainement. Parce que j'ai déjà un coach sportif qui est venu m'embêter avec ces histoires-là. Je prétends pas être nutritionniste. Mais par contre, j'ai les mesures nutritives pour dire à quelqu'un que boire du coca tous les jours, c'est pas forcément la bonne solution. Et après, je fais un programme d'auto-rééducation. Alors ça, j'utilise une plateforme qui s'appelle AxoMove, qui est une web application. Et donc, les gens ont accès à leur programme d'auto-rééducation via une vidéo. Ils ont juste à suivre la vidéo. Il y a un tas de commentaires déjà faits sur la vidéo et j'ai possibilité, moi, de rajouter les commentaires perso. Donc, pour personnaliser par rapport à la personne. Ensuite, j'ai une autre application qui est pour la partie sport. Où là, je leur fais un programme sportif. Avec pareil, c'est moi qui mets les charges, c'est moi qui mets le nombre de répètes, c'est moi qui mets le repos, je mets des notes et les gens peuvent me mettre des notes. Ils ont accès à une vidéo YouTube qui leur décrit l'exercice à faire.
Alors, la nouveauté par rapport au confinement, c'est qu'au tout début, je demandais à ce que les adhérents aillent en salle de sport, parce que pour moi, c'était important qu'ils prévoient un temps dédié au sport pour qu'ils s'y tiennent. Et avec le confinement, j'ai dû proposer une alternative à la maison. Et j'ai remarqué que les gens qui s'inscrivaient étaient aussi très observants vis-à-vis de ce que je disais à la maison. Donc du coup, j'ai proposé maintenant la possibilité de le faire aussi à la maison. Le sport santé ne nécessite pas forcément d'aller en salle de sport. Ensuite, il y a un pôle sur l'hygiène de vie, où là, j'ai tout un questionnaire sur la façon dont les journées des gens se passent. Et je donne quelques conseils pour améliorer ça. Le but du coaching n'est pas de tout changer d'un coup, parce qu'on sait que les meilleurs changements sont ceux qui sont faits progressivement. Donc c'est juste quelques conseils et j'apporte un petit peu plus de conseils, un par semaine, de temps en temps quand il y a besoin. Et il y a un pôle qui est basé sur l'alimentation. Alors cette alimentation, ça se veut pas être un programme de nutritionniste, hein, je travaille pas avec la pathologie ni quoi que ce soit, mais simplement je propose un rééquilibrage alimentaire quand il est nécessaire. Voilà.
Ok, et ça ne, qu'on soit d'accord, ça ne se substitue pas à une consultation de kiné, par exemple, ou de rééducation au sein d'un cabinet. Pas en ce moment, peut-être, puisque c'est le confinement, comme tu dis. Mais de manière générale, les programmes que tu offres sont des compléments ou ça peut remplacer ?
Non, ça ne doit pas remplacer, et c'est ce que je dis sur mon site. Si jamais c'est suite à une pathologie, par exemple, je sais pas moi, fracture ou autre, d'abord, on envisage la rééducation au cabinet. Une fois que la rééducation est terminée, si jamais le cabinet ne dispense pas de réathlétisation ou de choses comme ça, et que le patient est voué à trouver des solutions seul, alors ce coaching s'adapte tout à fait. Et il s'adapte aussi pour les gens qui ont des douleurs chroniques, qui sont pas forcément suivis en cabinet, qui ont par exemple 10 séances par an, et en dehors de ces 10 séances, eh bien, savent pas trop quoi faire. Voilà. Les coachings sont vraiment pour faire un lien, en fait, entre la rééducation de cabinet et éventuellement ceux qui veulent aller sur du sport performance après et qui vont passer avec un coach sportif.
Ok, donc oui, bon, c'est complémentaire et c'est pas ça remplace pas. Et quelqu'un qui voudrait avoir accès à ces programmes et qui en même temps, enfin, est-ce que ça serait possible de faire une rééducation avec un de tes confrères par exemple, quelqu'un qui te découvre et qui habite pas nécessairement dans ta ville, a déjà un processus de rééducation avec un kiné en cabinet.
Oui.
Il pourrait aussi souscrire à tes programmes en complément de ce qu'il fait avec quelqu'un d'autre. Mais est-ce que peut-être que le kiné devrait être au courant, il devrait y avoir un partage d'informations ou pas nécessairement?
Oui, bien sûr. Alors déjà, les gens peuvent me contacter, ça coûte rien de me contacter. Et je leur dirai si c'est pertinent ou pas d'envisager ce genre de programme en parallèle, parce que ça dépend des pathologies. Et ensuite de ça, si jamais il y a une rééducation en cours et qu'ils souhaitent le commencer pendant une rééducation, je peux prendre contact avec le professionnel, c'est pas un souci. Après, dans les cas que j'ai eus jusqu'à présent, en général, la majorité, ils ont terminé leur rééducation. Parce qu'il faut savoir qu'en France, par exemple, il y a des référentiels, on n'a pas le droit à autant de séances qu'on veut en fonction des pathologies. Par exemple, une lombalgie commune, ça va être 20 séances, ensuite il va falloir faire des demandes spécifiques à la sécurité sociale. Parfois, les patients décident d'arrêter parce qu'ils en ont marre d'aller chez le kiné, etc. Et ils cherchent des solutions plutôt à la maison. Voilà, le coaching commence en général plutôt à cette partie-là. Mais si jamais ça venait à se présenter de travailler en collaboration avec un kiné, moi, c'est avec grand plaisir.
Ce que tu proposes, les programmes, ils sont pas ils sont pas remboursés par la sécurité sociale.
Pas du tout. C'est une démarche en plus du patient. Voilà.
Ouais. D'accord. C'est après le, on va dire, c'est la continuité du parcours de soins, comme tu disais.
Absolument. Le projet en fait de ce coaching santé est né d'une demande des patients et des gens sur les réseaux sociaux, qui, à la fin de leur rééducation, avaient envie de bénéficier d'un suivi complémentaire pour leur vie de tous les jours. Je m'entends, quelqu'un qui va voir, par exemple, un kiné pour un mal de dos, va faire une dizaine de séances, n'aura plus mal à la fin, et son kiné va lui dire, voilà, maintenant, de votre côté, il serait intéressant de continuer ce qu'on a fait ensemble. Sauf que les gens ont tendance à perdre la motivation quand ils se retrouvent seuls. Et certains aiment être accompagnés. Donc, ce coaching, par exemple, est très intéressant dans ces cas-là.
J'ai toujours trois questions de fin pour terminer ces épisodes. La première question, quel est le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui voudrait s'inscrire dans une salle de sport, qui voudrait commencer une activité dans une salle de musculation après le confinement, par exemple, et qui n'y connaît pas grand-chose?
Le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de dédier un budget à du coaching au départ, qu'il soit à distance ou pas, et même je trouve que c'est encore mieux d'avoir un coaching en physique, en présentiel, parce qu'il y a beaucoup de salles aujourd'hui qui sont des salles low cost, la majorité d'ailleurs, et je le vois parce que j'y suis, il n'y a pas de suivi des techniques mises en place par les adhérents. Donc je propose vraiment aux gens de se prendre un ou deux coachings d'une heure pour qu'un coach sportif puisse leur expliquer les mouvements. Je pense que c'est le meilleur conseil qu'on puisse leur donner pour commencer.
Deuxième petite question, est-ce que tu as eu un modèle, toi, ou un mentor qu'il a encore aujourd'hui dans ton parcours?
J'ai eu plusieurs grands modèles dans mon parcours professionnel. Le premier est une personne qui s'appelle Marie-Ève Tonnelier et qui m'a suivi pendant mes études de kiné. C'est elle qui a encadré mon mémoire et c'est elle qui m'a orienté vers mon école d'ostéopathie où j'ai rencontré un deuxième grand mentor, je dirais Monsieur Terramorsi, qui lui est assez connu dans le domaine de l'ostéopathie structurelle, qui m'a appris énormément de choses. C'est un personnage un peu atypique, très particulier, tout le monde n'apprécie pas forcément, mais qui est un génie malgré tout. Donc voilà. Et j'ai terminé maintenant avec, je dirais, Hélène Duval, qui est aujourd'hui directrice de l'école d'ostéopathie que j'avais faite, et qui, elle, m'épaule chaque jour, et notamment là dans mes projets de mise en place de formation, que ce soit en thérapie manuelle pour les kinés, ou j'essaye de monter également une formation pour le coaching sportif, pour les kinés, coaching sportif, pardon, coaching santé, pour les kinés qui aimeraient se lancer dans ce projet également. Et elle m'épaule vraiment pour toutes ces mises en place. Voilà.
Quand tu dis que tu veux faire un programme pour ceux qui veulent se lancer dans le coaching, ça consiste en quoi exactement?
J'aimerais monter une formation parce que depuis que j'ai lancé le coaching santé, j'ai beaucoup de kinés, de jeunes kinés qui me contactent en me disant c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse, mais je sais pas comment le mettre en place, est-ce que tu connais des formations, etc. Et à ma connaissance, il n'y a pas ou très peu de formations sur le sujet mises en place en France.
Surtout que je pense qu'aussi en cette période, il y a quand même une conscience qui se fait de la dématérialisation des informations, des programmes, des choses qui peuvent se faire, qui vont se faire de plus en plus. On l'a vu avec toutes les applications comme Zoom, le télétravail, les programmes, les vidéos sur Internet, etc. Et même sur la téléréadaptation ou en France, que je sais plus le terme.
Les consultations, ouais.
Ouais, consultation à distance, quoi. Tout ça, c'est possible d'automatiser dans un certain sens. enfin d'automatiser. En tout cas, d'enregistrer des choses, enregistrer des programmes qui pourraient correspondre à plusieurs personnes. Et ça permettrait de toucher plus de monde, peut-être d'avoir des choses plus qualitatives, mieux réfléchies. Après, c'est moins peut-être personnalisé, mais on peut peut-être s'en aller là-dedans. Hein.
Sur le sujet là, de la téléconsultation, je pense qu'il y a eu une réelle prise de conscience là de l'efficacité que ça pouvait avoir. Parce que pendant la période de confinement, certaines personnes n'ont pas eu le choix. Que autour de la téléconsultation, et j'ai un peu milité pour ça avec des vidéos, etc., il y a une vraie pensée limitante des gens qui se disent eux-mêmes que si jamais il n'y a pas une présence physique, ça ne peut pas leur apporter de bénéfices. Et puis là, avec le confinement, ben comme certains sont arrivés dans des périodes très aiguës, ben en désespoir de cause, ils se sont dit « bon, allez, je teste quand même ». Et certains ont été, je pense, très étonnés des résultats qu'on a pu avoir avec des téléconsultations. Maintenant, que ce soit pour mes coachings ou quoi, je reste quand même un fervent défenseur de la personnalisation. Je pense que proposer des programmes tout faits, par exemple pour une rééducation de cheville, n'est pas très pertinent. Ça peut en aider certains quand ils n'ont pas accès du tout à des consultations par manque de thérapeute ou quoi. Malgré tout, je pense que la personnalisation, c'est le plus important et mes coachings sont complètement là-dessus. Les personnes que je coach peuvent me contacter tous les jours. J'hésite pas à faire des visios avec eux régulièrement quand il y a des choses à mettre au point, etc. Le but, c'est que ça soit vraiment collé à leur mode de vie et non pas que ce soit à eux de se coller à ce que j'impose.
Enfin, troisième question que j'ai, est-ce qu'il y a un livre, toi, qui t'a particulièrement marqué dans ta vie et que t'aimes bien recommander autour de toi ?
Alors, j'ai beaucoup aimé, dernièrement, ça a changé pas mal de choses, c'est le livre d'Idrissa Berkane, « Libérez votre cerveau », qui est pas mal basé sur les neurosciences. Alors, c'est un monsieur, il y a plein de choses qui sont controversées hein, par cet écrivain, mais peu importe, j'ai vraiment trouvé que c'était un génie dans sa façon d'écrire. C'est vraiment formidable. Après, en deuxième livre, le livre de Jean-François Terramancy, qui s'appelle « Ostéopathie, lésions structurées, concepts structurants ». Et lui, en fait, a fait un bouquin qui va beaucoup plus loin que le concept d'ostéopathie et qui, pour moi, change notre façon même de voir la vie. Voilà.
D'accord, je me suis noté les deux livres que j'ai pas lus. Celui sur l'ostéo, je le connais pas. Ce qui peut paraître surprenant.
Non, après, c'est très particulier dans le sens où tu verras que si jamais tu l'achètes et que tu le lis, il démonte énormément de modèles qu'on avait jusqu'à maintenant, hein. Les modèles de l'artère émettre, etc. Tout ça, enfin, il démonte un peu tout ça parce que lui, c'est pas sa façon de penser. Mais ce qu'il propose est hyper intéressant, vraiment. Donc, moi, quand j'ai assisté, en fait, son bouquin, lui, il le faisait je crois qu'il ne l'est fait plus maintenant parce qu'il est très malade, mais il faisait, en fait, des conférences sur 3 jours. Où il faisait son livre, en fait, sur 3 jours. Et tu ressors de là, t'as l'impression de t'être pris une sacrée claque, quoi. Donc, voilà.
Je note ça, j'irai voir aussi, je laisserai comme d'habitude les références des deux ouvrages là, en description de l'épisode. Pour ouais. Le livre de Idriss, j'en ai entendu énormément parler, je sais plus le titre, reformatez votre cerveau.
Libérez votre cerveau.
Libérez votre cerveau, voilà. Ouais. J'en ai beaucoup entendu parler, c'est vrai qu'il a fait un gros buzz, même sur, il avait une vidéo je crois sur YouTube qui avait explosé ouais, comme ça, je l'avais pas regardé. Enfin je l'avais regardé quelques minutes comme ça et puis je m'étais mis ça de côté.
Il est très très branché sur l'ergonomie, la neuroergonomie, comment faire fonctionner notre cerveau. Pourquoi est-ce que l'école actuellement ne colle pas à notre cerveau? On essaye de faire rentrer notre cerveau dans des cases au lieu d'adapter les cases à notre cerveau, etc. Et c'est très très intéressant vraiment.
Très bien. Avant de terminer cet épisode, si on veut en apprendre un peu plus sur toi, qu'on a envie de voir où se trouvent tes programmes, qu'on a envie de peut-être devenir client. Ou patient, je sais pas, client de tes programmes ou patient de tes consultations, ouais. Où c'est qu'on peut aller pour te retrouver?
Alors, il est très facile d'avoir toutes les informations sur mes coachings sur mon site internet qui s'appelle stocoachingsante.com. Sinon, une bonne façon de connaître mon personnage est de me suivre sur Instagram, je m'appelle Structural Ostéo. Et sur Instagram, en story, vous avez un peu ma vie de tous les jours, ma joie de vivre et ma façon d'être. Je suis aussi sur Facebook, Ferreira David -ostéopathe-déo. Et je suis enfin sur YouTube depuis peu de temps avec toujours Structural Ostéo. Et Ostéo dissocié de Structural.
Ok, qu'est-ce que tu proposes sur YouTube? J'ai pas été voir ta chaîne, hein. Je savais pas que tu l'avais ouverte.
Le début de la chaîne a été en fait des vidéos relais de ce que je proposais sur Instagram.
Le but était au départ de moi voir comment ça fonctionnait, etc. parce que je maîtrisais pas encore cette plateforme. À partir de maintenant, j'ai des vidéos qui sont dissociées entre Instagram et YouTube. Et en général, je fais un double format, c'est-à-dire un format très court de moins de 3 minutes pour Instagram, avec la possibilité toujours d'un rappel en disant, voilà, si vous voulez approfondir le sujet, je fais une vidéo d'une dizaine de minutes en approfondissant le sujet sur YouTube.
Parfait. Ben, je laisserai également les liens en description. Si les gens veulent aller te suivre, ils auront tout ce qu'il faut. Ça a été un bon épisode. Alors, ça a été évidemment compliqué à enregistrer. On a eu plusieurs coupures. On a dû refaire plusieurs jours d'enregistrement, on va dire. J'espère que tout ça, ça ne s'entendra pas nécessairement au montage. Enfin, au montage, au résultat de l'épisode. Est-ce que, je sais pas, tu aurais un dernier message à vouloir faire passer avant qu'on conclue ici?
Ouais, bah déjà, je voudrais te remercier de m'avoir invité sur ton podcast. Je trouve ça très intéressant. Je te connaissais pas du tout avant ton invitation et j'ai beaucoup aimé ton personnage, la personne que tu es. C'est très intéressant de parler avec toi. Et puis, je pense que ce que je conclurais pour dire aux gens un peu aussi ma façon de penser, il faut prendre soin de sa santé tous les jours. La santé, c'est pas uniquement quand on est malade qu'il faut commencer à s'en occuper, parce que quand on est malade, en fait, c'est déjà trop tard. Voilà.
Eh ben, j'ai pas grand-chose à rajouter. Je te remercie également à toi d'être passé sur le podcast. Merci pour ta participation, d'avoir répondu à mes questions qui des fois sont un peu chiantes, viennent un petit peu chercher, mais c'est fait exprès en fait pour essayer d'aller creuser dans des sujets. Merci, et puis je te dis peut-être à bientôt pour un prochain épisode.
Ouais, ça marche, avec grand plaisir, je souhaite une bonne journée.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pouvez partager le podcast à quelqu'un de votre entourage qui s'est récemment blessé ou envisage de reprendre le sport après un arrêt. Vous lui envoyez directement cet épisode. Il vous remerciera pour toutes les bonnes infos que partage David. Aussi, si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas de laisser une évaluation sur iTunes de 5 étoiles avec un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Ça peut paraître un peu pénible, fastidieux à faire, surtout je le répète à chaque épisode évident, mais c'est important pour moi puisque ça permet de gagner en visibilité sur la plateforme. Ça me permet aussi d'avoir un poids supplémentaire pour rejoindre de nouveaux futurs invités, tout aussi intéressants les uns que les autres. Merci à ceux qui prendront le temps de laisser ce petit avis et je remercie chacun de ceux qui l'ont fait auparavant. Pour ceux qui veulent s'inscrire gratuitement à la lettre biomécanique, il s'agit du premier lien qui est dans les notes de l'épisode. Non seulement vous recevrez chaque nouvel épisode directement dans votre boîte mail lors de leur sortie, mais aussi vous recevrez mes emails privés, donc j'envoie de temps en temps. Vous y retrouverez des conseils, des réflexions, les découvertes du moment autour du sport, de la santé. Le but est de vous permettre d'améliorer vos entraînements, de mieux comprendre votre corps pour faire mieux, pour être plus efficace. L'objectif, de toute façon, il est extrêmement simple, hein. Améliorer sa santé, sa longévité et être plus efficace dans son activité sportive. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller jeter un œil et vous inscrire. On a fait le tour pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée à tous et on se retrouve très très vite dans un prochain épisode du podcast Biomécanique. Ciao tout le monde.